Petit rock pour se réveiller de bon matin. Hey, 8h41. On est tombé du lit ici. 8h41, la matinée tienne. Hein? Quelle hygiène de vie de fou. Et un peu plus efficace qu'hier. Hier, c'était la rentrée. C'était le début de la saison 4 sur Twitch. 24 juillet. C'est vrai que c'est un peu tôt pour une rentrée. Mais je me suis quand même reposé 3 semaines. Et puis avec des petites nouveautés, puisque désormais, je poste. Juste avant cette revue de presse, cette matinée tienne sur Twitch, une revue de presse express, comme je l'ai qualifié sur TikTok. Bon, comme je suis un peu bavard, là où beaucoup de posts sur TikTok font 30 secondes, 2 minutes, la revue de presse est un peu plus longue chez moi. Donc, hier, elle faisait, je me suis amélioré. Hier, elle faisait 8 minutes 30, je crois. Et ce matin, elle est à 7 minutes. Waouh ! Donc, je viens de poster une revue de presse express de 7 minutes sur TikTok. Qui nous donne l'essentiel, et puis après je donne rendez-vous sur Twitch pour qu'on aille un peu plus loin, qu'on prenne le temps, 2h30, 3h comme d'habitude quoi. Comment ça va vous en cet été 2023? J'espère que vous êtes en vacances ou alors dans des boulots un peu cool qui s'apparenteraient à des vacances, ça existe. Je remercie Aline41 pour ce 6e mois d'abonnement. Flouda, comment vas-tu pour ce 23e abonnement? Ça claque quand même. MP12TH, j'espère que tu vas bien. Je prononce n'importe comment ton pseudo, je le sais, merci pour le 7e mois. Et Lolo Debixel, 22e mois d'abonnement, qui était le premier ou la première à sub ce matin. Ouais. 1 minute de 30 de moins ce matin pour la revue de presse express sur TikTok, je suis assez fier. Faut qu'on la regarde un jour, vous me direz ce que vous en pensez, ce qu'on peut améliorer, tout ça. Ouais. El Giganto, bonjour tout le monde, je suis heureux car j'ai vu ce matin que Mathieu Lartaud avait annoncé qu'il serait présent à l'automne aux commentaires de la Coupe du Monde de rugby. J'en parle d'ailleurs sur TikTok, là dans cette revue de presse, et puis on en parlera ensemble, c'est un article du Parisien qui nous permettra de rendre hommage à Mathieu et à son courage, à son humilité. C'est un garçon qui est juste formidable, Mathieu, qu'on a reçu dans l'Hebdo Étienne il y a quelques semaines, juste avant qu'il apprenne... que la récidive de son cancer et il vient de se faire amputer hein, d'une de ses jambes. On en parlera tout à l'heure ce matin. Merci Social Road pour ce 23e abonnement. Le canard banane vient de sub pour le 5e mois consécutif. Merci beaucoup. Nuno124, merci pour le 9e mois. Vive les actus, je suis carrément d'accord. Comment ça va? Il y a Pépin Camille qui me dit pas encore en vacances, mais oui, boulot apparenté aux vacances pour moi, on peut dire ça, donc c'est cool. Demain, entretien pour mon alternance dans une énorme entreprise de la musique, baguette bois parce que batteur peut-être, ou batteuse. En tout cas, hop, on croise les doigts pour ton entretien qui a l'air super important. Demain, ça va bien se passer. Ici, on sort du Covid, me dit 47 Alexia, et oui, ça existe encore. Pfiou! Journée off aujourd'hui, Broubo 06, c'est bon, on est très heureux pour toi et merci d'être avec nous, Broubo. Tiens, y a une question d'Astréran. Salut Astréran, merci la persifleuse pour le 16e mois, c'est gentil. Il y a Astréran, bah, donnez-moi votre avis là-dessus. Astréran qui nous pose la question là, tout de suite ce matin. Est-ce qu'il est bien le cadrage? Oui, il est bien le cadrage. Bon, vraie question, est-ce que tu vas laisser tout en libre accès ou passer en sub only? Bon, c'est une très bonne question d'Astréran, je rebondis là-dessus. À ce propos, vous savez que voilà, moi j'ai arrêté la matinale de France Info, pas parce que je l'aimais pas, mais parce que le réveil à 2h du matin depuis 7 ans commençait à me peser un peu physiquement, j'ai pas trop eu le choix. Hein. Le corps me disait stop, monsieur Étienne. Et donc j'arrête France Info, je poursuis Question pour un champion, mais la saison prochaine je vais être beaucoup plus sur Twitch, le matin, la matinée Étienne, vendredi soir, l'hebdo Étienne. Le retour sur l'actualité de la semaine avec des invités et la nouvelle émission hebdo sur le jeu vidéo que je lance là fin août, ça me plaît, dont vous avez eu deux numéros déjà, une émission qui va devenir hebdomadaire et puis plein d'autres choses aussi qui sont en cours de développement. Donc je vais être beaucoup plus présent sur Twitch. Le temps que je passais sur France Info, ben, je vais l'investir clairement ici avec vous. Et effectivement, c'est une réflexion qui est en cours de savoir si là, par exemple, à la rentrée ou dès le mois d'août, on passerait en sub only, donc pour les gens qui connaissent pas le jargon de Twitch, c'est-à-dire au fait que les replays, hein, uniquement les rediffusions et uniquement sur la chaîne Twitch de mes différentes émissions, eh bien, ne soient accessibles qu'aux abonnés. On ne parle que des replays, bien sûr, sachant que dans ce cas, tous les replays seraient accessibles sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube Samuel Etienne, VOD Samuel Etienne, voilà. Donc les replays seraient toujours accessibles, mais ils ne seraient plus sur, sur Twitch en accès gratuit comme c'est le cas aujourd'hui, mais il le serait sur YouTube. Voilà, ça changerait pas grand chose. C'est vrai que c'est une réflexion qui est en cours, bon, qui est une réflexion d'ordre financier, hein, puisque vous savez que les replays sur Twitch ne génèrent pas de monétisation, alors que sur YouTube ils en génèrent une petite. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est une réflexion qui est en cours, j'ai pas encore pris la décision, mais je me pose la question. C'est une question que je me pose notamment avec les deux garçons très sympas qui gèrent la chaîne YouTube de Replay, qui font un super boulot. Donc je vous lis, ça m'intéresse. Je réponds aussi à Tartignoris qui dit « Je vois beaucoup de streamers boire du coca, est-ce qu'il y a un sponsor massif caché ?» Alors moi je me suis mis un peu au coca pour baisser ma consommation de café, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Ici quand il y a sponsor, c'est affiché, hein. L'hebdo Étienne sponsorisé par France Télévisions, l'émission Gaming sponsorisée à partir de la fin août là, par deux marques que je vous annoncerai très bientôt, donc on cache rien, il n'y a pas de sponsoring Coca-Cola, sinon je vous le dirai, c'est juste que voilà, c'est une façon de diminuer ma consommation de café. Alors, je vous lis. Mais bien la date du live du replay, oui. Tant que c'est gratuit, tout va bien, ce serait dommage car j'aime ton contenu, miaou. Oui, ça resterait gratuit sur YouTube, bien sûr, hein. Bien sûr. Très mauvaise idée, le Coca Zero du Niku Manga. Ah oui, mais il faut que je baisse ma consommation de café, quoi. Merci Béné pour le très gentil message et pour le 16e mois. Electrib 45, les habitués sont là. Merci pour le 23e mois d'abonnement. Kira, merci pour ce 9e mois d'abonnement. Ça nous fait un bébé anniversaire, comme tu le dis, pour mon journaliste, streamer, animateur. Beaucoup trop de casquettes pour toutes les cités préférées. T'es adorable. Merci Point of View 3 pour le 16e mois. Merci KGA4 pour le 5e mois. Merci La Persifleuse encore pour le 16e mois. Plaisir partagé. En gros, si on n'a pas les moyens de te sub ici, on peut aller regarder les replays sur YouTube, dit Sextasy, exactement. Sachant qu'en plus, je trouve que sur YouTube, l'interface, elle est un peu plus sympa pour les replays, en plus. Voilà. Tiens, bah d'ailleurs, il y a Donadriel qui dit, il y a tellement de pubs sur le replay de Twitch que la dernière fois que j'ai voulu regarder un, j'ai arrêté, j'ai attendu le replay sur YouTube. Bon, bah, vous êtes en train de me convaincre. CG Petite Marseillaise, bonjour, il y a beaucoup de streamers qui mettent les replays en sub only, pour moi il n'y a pas de problème, le sub permet de soutenir le streamer, ok. Je dis pas que les bon pour l'instant que des messages positifs, mais s'il y a des messages négatifs, je les lis aussi, hein. Merci Cherche Rao pour le 14e mois. Merci Erwan Le Breton avec un S pour le 8e mois. Merci Mandou76 pour le 10e mois. Plaisir partagé. Je vous lis. Sur YouTube, il y a tous les trucs même plus disponibles de Niku Manga. Ouais. Tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Ouais, mais votre avis m'intéresse. Astréran, moi je trouve ça normal si on regarde quotidiennement de payer un si petit prix pour soutenir, vu que si on revient c'est qu'on apprécie. Oh c'est gentil, il y a Zolière qui a écrit « Bonjour, peu importe la décision que vous allez prendre, elle sera juste pensée et maîtrisée, je suis pas sûr mais c'est gentil de le penser. » Merci Necoms pour cet abonnement, ce 11e mois d'abonnement, merci Guillaume pour le 17e mois, merci Astréran pour le 4e mois, merci Maud Guillot pour le 22e mois, merci Broubrou pour les bits. Merci Necoms pour le 11e mois. Merci Mandou76. Vous me conseillez plutôt le matcha pour arrêter le café. Vous êtes très nombreux, hein. Je ne vous ai pas ignoré. À un moment, mais c'est par période, là. J'aime bien le goût du Coca Zéro en ce moment. Bon, je sais que c'est pas top. Je vois un bonjour de Bastia, me dit Simon. Papa, si tu savais comme j'aime cette île. Il faut bien donner l'avantage au sub, je suis donc pour l'accès au sub uniquement. Bon, en fait, personne dans le chat ce matin, vous êtes déjà 1000, me trouve que c'est une mauvaise idée de passer en sub only. Bonjour Samuel, je suis aveugle, nous dit PP73000 qui est donc non-voyant et je n'ai pas les moyens de te suivre. Autrement, tu es gratuitement sur Twitch en direct, je suis désolé, merci pour tout. Alors je vais rester gratuit sur Twitch en direct, je resterai gratuit sur YouTube aussi. Et puis sachez que j'ai lancé une petite revue de presse express tous les matins sur TikTok, donc tout ça c'est accessible gratuitement. Hein. Ok, Nuraillon, tout à fait légitime de vouloir appliquer ce système quand un travail est de qualité. Il est normal d'en retirer un petit quelque chose. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mon travail est de qualité, mais le message est gentil. Pourquoi le Coca Zéro est une mauvaise idée, me dit 47 Alexia, parce que tu dis à ton cerveau que tu vas boire du sucre, mais tu le leurres, c'est vrai. Et il s'en rend compte quelques minutes après, et pour compenser le sucre qu'il n'a pas eu, il te donne plus faim, et donc ça fait grossir. Bon, je me suis remis au sport. Ça se voit ou pas que je me suis remis au sport? Je me suis remis à la course à pied. Je suis content, hein. Bon, je cours comme un octogénaire, mais je suis content, hein. Vous aussi, ça vous est arrivé de reprendre le sport après une longue pause de quasiment un an pour moi? Eh ben, ça fait du bien, hein. Mais au début, c'est lent. Azan01, merci pour l'abonnement offert à Pépé, justement. Pandanirio, merci pour le 15e mois. Tiens, j'ai oublié de d'allumer le ventilateur, je commence à avoir chaud. Tibet, Guillaume, Astréran, encore merci. Ah, tiens, des avis négatifs, j'en cherchais depuis tout à l'heure. C'est Papy Polka. Perso, je suis pas fan de repasser les replays en sub-only, car si on arrête un live en cours de route, ça retient où on en est sur le replay Twitch et on n'a pas tous les moyens pour sub. Okay. Ah, je comprends, ouais. Mais bon, après, je pense que tu peux retrouver ça sur YouTube aussi, quoi. D'un petit clic. Team Smile, super idée. Il y aura combien de décalage entre le live et la rediff YouTube? Alors, l'idée, c'est que gros, la revue de presse, donc ça, c'est Mathieu sur la chaîne YouTube qui s'en occupera. Là, la revue de presse sera disponible quasiment dans la foulée, on va dire début d'après-midi. Pour une revue de presse qui sera arrêtée à 13h, quoi, midi 13h. Et puis pour les émissions un peu plus lourdes, il faut penser au travail du monteur quand même, type l'Hebdo Etienne ou Ça me plaît, l'émission sur le jeu vidéo, ce sera le lendemain pour une émission qui sera passée le soir, quoi. Au plus vite, quoi. Au plus vite. Clamakine, j'adore ta blague sur les pizzas, je kiffe. Vous êtes trop mignon à vous inquiéter pour ma santé par rapport à la Spartan. Vous êtes vraiment des anges. Hein. Ouais. Le sub-only, c'est pas un gros changement pour les viewers, me dit Faille spatio-temporel, je kiffe ton pseudo. Alors si ça fait une différence sur tes finances, bon ça j'ai aucune idée. C'est un peu l'idée, mais j'ai aucune idée de l'impact. Autant le faire. Bon bah. Oh là là là, j'avais pas vu. Il y a Lilou Rennes qui nous a régalé. 5 abonnements offerts à la commu. Merci Lilou, merci Lucien Ducasse pour le 15e mois, merci Captain McBernick pour l'abonnement offert à Roro Escargot, merci Papa Crux pour le 11e mois d'abonnement. Allez, je vous lis encore un petit peu, puis on va démarrer cette revue de presse, je suis chaud ce matin, je suis chaud, il y a des trucs intéressants. Ouais. Ok, ça rigole, il y a Pépé qui s'est fait offrir un abonnement et qui dit merci, ça me touche beaucoup, et puis il y a Boussoufle qui répond tu es touché mais j'espère que tu restes debout. Vous êtes en pleine forme. Oh merci Monsieur Dodo, juste avant de commencer ma journée de boulot, bon courage à toi, bon courage à tous ceux qui s'apprêtent à aller au boulot ou qui sont peut-être déjà au travail. Je fête mon premier anniversaire avec Monsieur Samuel Etienne, tu peux m'appeler Sam, hein. Merci pour toute cette année et tous les mois qui suivront. Oh, vous êtes trop cool. Bon, trop mignon. Pardon. C'est mon petit Solal en ce moment, celui qui a 3 ans qui dit ça en ce moment sans arrêt. Dès qu'il voit un truc choupitou, je sais pas sur dans la rue ou sur mon téléphone, il dit oh trop mignon. Voilà. Même quand c'est un animal carnivore très dangereux, il a des critères de très mignon qui sont assez étonnants. Donc parfois tu lui montres une bête monstrueuse. Il y a peut-être une bonne tête sur le moment sur la photo, parce qu'on regarde beaucoup les animaux avec Malo et Solal. Malo est très intéressé par la faune, ce qui est classique chez les enfants, surtout quand on a 6 ans, 7 ans, fin août, l'anniversaire. Et du coup, comme Solal, son petit frère de 3 ans, s'intéresse à tout ce que fait son frère, évidemment, il s'intéresse aussi aux animaux, et donc je leur montre sans arrêt des photos. Est-ce que tu peux nous montrer un lamantin? Est-ce que tu peux nous montrer? Alors, parfois, il y a des animaux, je ne connais même pas leur nom. Et puis, et Solal a parfois des réactions un peu surprenantes en mode trop mignon. Alors que c'est un crocodile, toutes dents dehors, quoi. Un peu bizarre. C'est trop mignon. Si, Solal, c'est effectivement un personnage dans un roman rap. Ça vient de là, en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant qui porterait ce nom. Et du coup, Hélène a bien aimé aussi ce prénom. Exutoire, merci pour le 11e mois d'abonnement. Et hop, on soutient ce jeune retraité de la télévision française. Merci pour le mot. Yann J, merci pour le 20e mois. Merci D'Artagnan pour le 12e mois. Merci Monsieur Dodo, à nouveau, et bon courage. Ah, ma fille est pareille. Tout ce qui est méchant et mignon, me dit AEG. Oh, c'est mignon. D'Artagnan, je viens m'asseoir sur ma chaise au boulot avec Samuel. La reprise du boulot après mon congé paternité est supportable. Bon, j'espère que ça se passe bien à la maison, en tout cas. Ouais, Alexandra, c'est ça. Oui, pardon. Alexandra demande la question, si on passait en swap only, à quel moment serait postée la revue de presse? Elle serait postée le jour même, juste après, genre en début d'après-midi, pour répondre à ta question. Donc pas 17h30, hein, plutôt genre 13-14h, quoi. Social route, je dois aller travailler, mais pas envie du tout des conseils. Si, il faut. J'ai envie de te dire, n'y va pas. Tu vois, envoie tout bouler, sois un peu punk. No future, mais justement, le problème, c'est que si, il y a futur. Donc, vas-y quand même. Peut-être réfléchis à trouver un nouveau boulot, peut-être. Peut-être. Voilà. Va bosser et passe une partie de ce temps là-bas à chercher le poste d'après, quoi. Merci, Ursong. Ah, les conseils du chat. Regardez. Les conseils du chat. Retourne au lit et dors, tu réfléchiras à ça plus tard. Tu es très malade, dis-le à ton patron. J'adore. Oh, trop mignon, on regarde depuis la Grèce ce matin. Quentin, CRDT, salut Samuel, toujours en stage d'ingé en Grèce. J'espère que ça se passe bien, ton retour et le bienvenu. J'ai perdu la ligne. Durant mes matinées. Ouais, on va être là tous les matins à partir de maintenant, hein, jusqu'en juin prochain. Hein, ça va être énorme. Bon, j'arrête de bavarder. 20 minutes qu'on est ensemble. Je vous propose un petit sommaire. Ah, mon amoureuse qui m'écrit. C'est ce qui est toujours prioritaire. Hop, excusez-moi, je réponds à mon amoureuse. Et après, on fait le sommaire. J'ai une nuit un peu hachée parce que de temps en temps un des deux enfants vient après un cauchemar ou un truc vient dormir un peu avec nous. Là c'était le grand, c'est Malo qui est venu dormir un petit peu là, qui avait pas envie d'être seul. C'est pas systématique, mais de temps en temps pourquoi pas. Et ça bouge un enfant la nuit, hein. Ça bouge, ça donne des coups de pied, ça donne des coups de poing, ça fait des cauchemars. Et Solal il me tape la tête et puis non, en dormant. Malo il s'étend, il se met en travers du lit, voilà. Et par-dessus moi, donc voilà, où il me pousse. Voilà, donc c'est des nuits un peu. Je crois que tous les parents connaissent ça. Voilà. Mais on est tellement content de les avoir que ça le fait, quoi. Merci Airmate pour le 8e mois d'abonnement. C'est gentil. Et le message Poulbo79, merci pour le 8e mois d'abonnement aussi. Au Calme TV, merci pour le 6e mois. Azri8, merci pour le Prime. Et je crois que j'ai remercié tout le monde. Bon, oui, le sommaire, on y va? On y va? Merci CocoPB76 pour le 8e mois. Ah, il y a une série mathématique de 8e mois là. Allez, on y go pour le sommaire? Yes baby go. Ah oui, me dit Alexandra. Oui, t'as raison. On va lancer le yes baby go. De Dieu, me fait peur celui-là. Yeah, c'est parti, oui, on a le feu vert. Pour le sommaire ce matin, où je vous le fais de façon traditionnelle, je vous montre les unes en 10-20 minutes, quoi, pour vous dire un petit peu de quoi on va parler ce matin. Ou alors, c'est vous qui choisissez, je vous montre, je sais pas si ça va marcher ça, ma revue de presse express de TikTok de 7 minutes, que j'ai lancée hier, là, voilà, que je fais tous les matins avant ce live, qui est en gros un sommaire. Pour comme ça vous avez le sommaire et vous me dites ce que vous pensez de ce truc, ce qu'on peut améliorer, c'est vous qui décidez. Allez. Ou on le fait de façon traditionnelle, on fait un sondage, ou alors on fait TikTok, nouveau sondage, sommaire façon 1 traditionnelle à l'ancienne ou façon TikTok, je vous montre la vidéo Et vous me dites ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, tout ça. Voilà. Ok. Vous avez 2 minutes pour voter sommaire façon traditionnelle. TikTok, je ne sais pas. Ok, c'est parti. C'est vous qui décidez. Le chat a toujours raison. Oh, c'est pas... ouais, j'ai l'impression que c'est TikTok qui va... J'ai l'impression que c'est... les deux, dit Maxence. Ben non, sinon, il n'y aurait que du sommaire ce matin. Je sais pas si ça... Mais c'est bien d'ailleurs, comme ça, j'aurai votre... Ah oui, oui. Ouais, TikTok est un petit peu... Ah, le TikTok n'a pas tant d'avance que ça, 55-41%. Ça va être serré, cette histoire. Ça va être serré, cette histoire. Hop, un petit coup de Google et un petit coup de sondage. Il est là, regardez. 54% pour TikTok, 42% pour le traditionnel. C'est serré, hein. Bon, si TikTok gagne, sachez de toute façon que ça dure 7 minutes. Hein. Ça va être court, hein. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour aussi. Ah bah tiens, la vidéo TikTok, parce que je dois partir dans 10 minutes, me dit Ribon TV. Bonjour Samuel, es-tu utilisateur de TikTok, mis à part tes publications là-bas, me dit Leoguette. Ben je commence du coup, avant non, notamment dans les toilettes comme tout le monde. C'est hyper addictif ce truc, c'est incroyable, c'est bien fait, hein. Voilà l'algorithme quoi, c'est très fort. Hein. Très fort. Voilà. Pas forcément pour le TikTok à chaque fois, me dit Choupi, mais je suis curieux donc de voir, donc je vote TikTok. Évidemment on le fera pas systématiquement. Hein. Ok, bon, on regarde alors, ok. Bon, je crois que... Ah non, on va laisser le sondage aller jusqu'au bout. Parce que regardez, le sommaire façon traditionnelle est en train de remonter très 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 fort. Il n'est pas impossible que sur le fil, il reste genre 30 secondes. Le sommaire façon traditionnelle passe devant. TikTok n'est qu'à 51%. Moi, je laisse le chat décider. 45-51, il doit rester 20 secondes. 46-51. Voy, l'ancien Twitter devenu X, on en a parlé hier à Rapso. On fait une petite pause ce matin, mais on en reparlera. 49-48, c'est traditionnel passé devant. On ne verra pas le sommaire façon TikTok. Oh, ce suspense, ce retournement. Toujours les conservateurs qui gagnent ici. LOL me dit Tick from Paris. Exactement, on était parti pour une large victoire du sommaire TikTok. Et vous voyez qu'en fait, c'est le sommaire façon traditionnelle. Le façon traditionnelle, voilà, qui l'emporte, pas de souci. Hein, c'est vous qui avez la main, il n'y a aucun souci. Donc ceux qui veulent voir ma revue de presse express façon TikTok, bah, c'est sur TikTok hein, depuis 8h30 ce matin. Et puis donc on part en traditionnel. Quoi. Voilà. Moi je vous suis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de 49-3 ici, c'est la démocratie. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Arrête le commentaire sur la politique, ça me le tienne. Captain McBernick, allez les jeunes, place aux vieux. Vous êtes bah, ok. Moi, je respecte. Il y a Marie qui dit « Samuel, tu as influencé les résultats. Je crois que c'est interdit. » Bah non, moi, j'ai essayé d'influencer les... Oui, c'est vrai que j'ai essayé d'influencer les résultats pour le sommaire TikTok. Vous avez vu, ça n'a pas marché du tout. Vous avez votre indépendance, c'est très bien. Fabien, merci pour le 14e mois. Rom, SAV, merci pour le 14e mois. Yo, man, merci pour le 22e mois. Codis pour le 20e mois. Merci. CocoPB76, merci pour le 8e mois. À nouveau, très heureux de vous retrouver tous. C'est parti pour le sommaire. Go, allez. Hop, je vous cale ça. Allez. C'est chargé. Alors, Marigolotte, j'aime ce pseudo, merci pour le 9e mois. Le petit sommaire, qu'est-ce qu'il y a dans vos journaux ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité de ce mardi 25 juillet 2027, mais j'ai un petit peu d'avance. 2023. Alors, on a pas mal de journaux qui reviennent sur l'interview qu'a accordé le président Macron hier au JT de 13h de TF1 et de France 2 depuis Nouméa, Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est parti pour 4-5 jours dans la région Pacifique. Voilà. Le Figaro nous dit que bah, y a pas eu de grosses annonces. Hein. Macron invoque l'ordre mais reste évasif sur les émeutes. Voilà. Alors c'est vrai qu'on le verra, il invoque l'ordre, il invoque l'autorité parental, il dit qu'il va en parler à la rentrée. Bon, c'est pas très 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 clair. Et puis sur la fronde, la colère des policiers, notamment marseillais, qui demandent la libération d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille, qui est en détention préventive actuellement, eh bien il s'est prononcé aussi. Le Figaro en parle. Vous verrez que Libération en parle également et se demande justement à ce propos, après les mots du patron de la police nationale, c'était dans une interview au Parisien d'ailleurs le dimanche dernier, selon lequel, avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Ça, ce sont des propos qui font beaucoup réagir. Alors, la Libération se demande si la police est au-dessus de les lois, des lois. L'état de droit empêche la police de dormir. Regrette Libération. Le Parisien, d'ailleurs, nous raconte, vous le verrez, une histoire assez intéressante à ce propos, en nous expliquant qu'a priori, Gérald Darmanin a validé l'interview du directeur de la police nationale tenant ses propos, mais sans en parler à l'Élysée. Est-ce qu'il y aurait de l'eau dans le gaz, de la friture sur la ligne, des tensions entre l'Élysée et la place Beauvau, entre l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin? C'est ce que pense le Parisien. On verra ça. Nico Manga qui commente Gérard a commencé encore. Gérald, je crois. C'est Gérald, non? C'est pas Gérard. Il est où, il est où mon GG? Où es-tu? Gérald, où es-tu? Je te cherche. Darmanin, il me faut son prénom. Darmanin. Cette manie des journaux de dire Darmanin, Macron. Ils ont un prénom, quoi. C'est comment, c'est Gérald, hein? C'est Gérald. C'est pas Gérald de Rive, mais c'est Gérald. Donc, c'est assez intéressant, c'est le Parisien qui nous raconte ça. Kivan, merci pour le 6e mois. Roar, merci pour le 12e mois. Heureux de retrouver les habitués. Oui, c'est Gérald. On parlera de politique en Espagne et en Israël. Ici, c'est dans le Figaro. On fera le point sur la situation politique en Espagne après les législatives de dimanche. Parce que c'est très confus, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, ni pour la gauche, ni pour la droite et l'extrême droite. Donc, c'est confus, il y a un peu de brouillard. On se penchera là-dessus, notamment avec l'Humanité qui consacre sa une à l'échec de la droite dure en Espagne. C'est vrai que les sondages donnaient la droite et l'extrême droite largement gagnantes de cette législative, de ces législatives en Espagne. Et puis finalement, les électeurs de gauche, manifestement, malgré l'été et les vacances, se sont fortement mobilisés. Donc l'Humanité propose un dossier vachement intéressant là-dessus. L'Humanité qui nous parle aussi de la situation politique en Israël, avec, vous savez, cette fameuse réforme de la justice très contestée, qui est souhaitée par le gouvernement Netanyahou, qui est très contestée. Ça fait 30 semaines de manifestations en Israël. Et l'article principal de cette réforme contestée vient de passer... a été adopté par la Knesset. Qu'est-ce que ça change? On le verra avec Luma Nokovabi. Merci beaucoup pour ce gentil message qui me touche beaucoup. Et merci pour ce 21e mois d'abonnement aussi. L'actualité en France dans le Parisien, c'est la fin du ticket de caisse. Le 1er août prochain, le ticket de caisse, c'est fini. Bon, concrètement, c'est-à-dire qu'on ne vous l'imprimera plus, le ticket de caisse, quand vous ferez vos courses. Sauf si vous le demandez. Voilà. Aujourd'hui, dans pas mal d'enseignes, notamment de la grande distribution, on vous demande déjà ce que vous le voulez ou pas. Cette fois-là, c'est la loi, 1er août. On vous l'imprimera pas, sauf si vous le demandez. Pourquoi ? Demande Martin, pour des raisons écologiques, pour faire des économies de papier, d'énergie, tout ça. On en parlera, c'est vachement intéressant. C'est la vie du quotidien, puis c'est un peu l'écologie aussi. Merci beaucoup, Belette 38, pour ce 4e mois d'abonnement. Puisqu'on parle de tickets de caisse, on parlera de gros sous de football et surtout de gros sous avec le feuilleton Mbappé. On va essayer de se le résumer tout à l'heure, ce feuilleton Mbappé. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, c'est pas facile, hein. Bon, dernier épisode, c'est que le club de football saoudien Al Hilal vient de faire une offre au PSG à 300 millions d'euros pour Mbappé. J'aimerais bien qu'une chaîne de télé, moi, propose 300 millions d'euros pour m'acheter. Ça n'arrive pas, hélas. Voilà, donc pourquoi 300 millions? Où on en est? Qu'est-ce que ça cache? La stratégie du PSG, tout ça, feuilleton de fou. Ça met très en colère Jérôme Chapuis, le directeur de la rédaction de La Croix, qui consacre son édito là à droite à ce sujet là, des mesures en disant c'est plus du foot, hein, c'est plus du foot cette histoire, c'est un grand monopole. Vous me direz votre avis, on fera peut-être un petit sondage là-dessus. Hein. Ouais. C'est surtout 700 millions de salaires sur un an pour Mbappé. Alors on vérifiera cette info parce que j'ai vu des infos qui semblaient un peu contradictoires là-dessus. 700 millions de salaires. Est-ce que c'est vraiment 700 millions de salaires? Est-ce que c'est sur un an, sur deux ans? Est-ce que c'est moins? C'est l'info que j'ai beaucoup vue sur Twitter hier, mais quand je cherche vraiment l'info, la source, j'ai l'impression que peut-être que Twitter s'est un peu emballé. Hein? On ira voir ça ensemble tout à l'heure, on essaiera de trouver une source un peu carré, quoi. Un peu carré. Ouais, sur Twitter ou sur X, bien sûr. Alors, on rendra aussi hommage à un grand monsieur, un mec que j'adore, qui s'appelle Mathieu Lartaud, qui est journaliste à France Télévisions, service des sports, qu'on a déjà reçu dans l'hebdo Étienne, et qui est un garçon formidable et qui est à nouveau frappé par le destin. Je dis à nouveau parce qu'avant d'être journaliste sportif, Mathieu, il rêvait d'une carrière de rugbyman professionnel et puis il a eu un cancer quand il était jeune au niveau de la jambe, du genou, qui l'a empêché d'avoir cette carrière. Il est devenu journaliste sportif, grand commentateur de rugby sur France Télévisions. Et Mathieu, il y a quelques semaines, eh bien, il a pris la récidive de son cancer à la jambe et donc il vient d'être amputé. Voilà, il vient de se faire poser une prothèse. Vous le voyez sur l'image de gauche, là, ce sont ses premiers pas en béquille avec cette prothèse. Et cette interview qu'il accorde aux Parisiens est un... Il y a El Giganto qui dit grand monsieur, ouais. Un modèle de... d'humanité, de force, d'abnégation, d'humilité. Voilà. Mathieu le boss, me dit Epidemio. Donc c'est édifiant. Et puis il est déjà sur l'après. Il se projette déjà dans son retour, dans son poste de commentateur des matchs. Voilà. Il dit « Je serai là pour la Coupe du Monde de rugby. » Grand monsieur, me dit Bolette. Ouais. J'adore Mathieu Lartaud. Ouais, on lira ça. Puisqu'on parle de sport, on parlera des audiences pour France Télévisions du Tour de France parce que c'est à cartonner. Et puis du feuilleton, du conflit au Journal du Dimanche parce qu'il y a du nouveau. On finira avec les Échos. Un mot sur la menace sur la croissance européenne. On verra pourquoi il y a quelques nuages sur la croissance européenne qui sont en train d'apparaître dans le ciel. Et puis on finira avec cet article dans les Échos sur David Guetta. C'est un petit cocorico. C'est un petit cocorico puisque David Guetta rejoint les artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify. Il y a quelques jours, là, il a même atteint la 4e place. Je crois qu'il est 6e aujourd'hui. C'est une première pour un artiste français. Voilà. J'aime bien, moi, de temps en temps, notamment quand je cours, écouter les remixes de David Guetta, parce que je trouve que ça donne bien la pêche pour courir. On aime, on n'aime pas. En tout cas, c'est un carton. Et les Échos reviennent un petit peu sur le parcours de David Guetta à cette occasion. C'est page 18. Et puis un petit horoscope, bien sûr, à la fin. Un petit plaisir, notre petit concours quotidien de l'horoscope. C'est qui en premier, me demande Pierrot le Crabe, au podium de Spotify? Eh bien, c'est... Ah ben, je vous le dirai pas. Il faut rester... pendant 2 heures dans la revue de presse. C'est un chanteur ou c'est une chanteuse, je sais plus. Oh, c'est mignon, le summer TikTok est très bien en direct sur France Info. Si à ma tante on n'a pas 4 heures devant nous, c'est parfait, me dit Lars Penga qui me raconte aussi sa vie de famille et ça me réjouit. J'aime bien quand vous me parlez de vous. Et donc ok, cette revue de presse express sur TikTok vous plaît bien, c'est cool. 20 degrés aujourd'hui, sortez vos pulls, me dit MMA pour Suédois. Ah, il fait froid ? C'est vrai que ça caille. Hein. Oh. En tout cas, Paris, ça caille. C'est bien, ça nous fait un peu de fraîcheur. Voilà pour le petit sommaire. Vous voyez, ça y a des choses intéressantes. Hein, vous en pensez quoi ? Vous avez du bien toute cette caféine. France Star. Merci pour ce 5e mois d'abonnement. Quiche 54. Au lardon, pas au lardon. Merci beaucoup pour le 8e mois d'abonnement. Putain, les blagues de... Le niveau de blague de Samuel Etienne. Pseudo quiche, commentaire du streamer. Lardon, pas lardon. Attends, je devrais avoir honte. Eh ben, je n'ai pas honte. C'est ça qui est encore plus grave. Merci quiche. Lorraine, pardon. Pour le 8e mois d'abonnement. Oh, j'ai honte. En fait, non. Oh. Y67, merci pour le 13e mois d'abonnement. Oh, merci Alexandra pour TikTok. C'est son vrai prénom en plus, le pauvre Quiche. C'est pas un prénom, Quiche. Attends, qui s'appelle Quiche? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens dont le prénom est Quiche. Et dans un instant, vous allez me dire qu'il y a des gens dont le prénom est Pizza. Pambagna. Comment s'appellent les trucs de jeunes, là? Truc que mangent les jeunes, là. Tacos. Mais tacos, les tacos modernes, là. Comment ça? Non, il n'y a pas les tacos un peu modernes, là? Non, c'est pas Vrap, c'est pas Pita, je pensais aux tacos un peu modernes, là. Ouais, tacos 3 viandes sauce fromagère, là, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui s'appellent tacos? Il y a des gens qui s'appellent... kebab, il y a des gens qui s'appellent quiche, moi je ne crois pas. Vous avez des amis qui... Voilà. Mais hein? Vous avez des amis qui s'appellent comme ça? Je ne crois pas, moi. Je crois que c'est une info chat, ça. Mon meilleur ami s'appelle Sauce Andalouse, me dit au calme TV. Tiens. 8 milliards d'habitants, sûr qu'il doit y avoir un kebab dans le tas, me dit Diesmen Sis Siamis. Oui, c'est vrai que cet argument est assez pertinent. 8 milliards d'habitants sur la Terre, il y a sûrement un kebab, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas faux. C'est pas faux. Une amie s'appelle Cerise. Ah oui, mais c'est pas pareil, les noms de fruits. Ça reste dans le comestible. J'ai connu une framboise quand j'étais jeune, au lycée. Framboise, ça lui allait très bien d'ailleurs. Très joli prénom. Oh! J'ai connu quelqu'un pour de vrai qui s'appelait Paille, me dit Oranette. Paille, comme la paille. Pauvre gamine. Oh là là, c'est chaud d'appeler sa fille. Paille quand même, paille. Déjà que t'as pas besoin de ça pour prendre cher dans la cour de récré, t'imagines que t'appelles paille. Pensez aux. Quand, ceux qui n'ont pas d'enfants là encore, là, avant de donner un prénom très original, tellement original, hein, pour vous démarquer là, et de l'annoncer en claironnant sur les réseaux sociaux là. Donner un prénom très original à vos enfants, quoi. Pensez à la cour de récré, hein. Pensez à la violence de l'univers scolaire et de la jeunesse, quoi. Hein. Donc évitez les pailles. Non, cannelle, c'est joli. Il y a Good Heart Cinnamon qui dit je m'appelle cannelle. J'ai connu une amie qui s'appelait voyelle, vraiment. Pas consonne, voyelle, vrai, vrai de vrai. À l'époque où je faisais la fête, j'avais une amie qui s'appelait voyelle. J'ai bugué hein, la première fois. Hein. Voyelle. Vous imaginez un cours de récré? Voyelle? Qu'est-ce qu'elle a dû... Hein? J'ai connu une groseille, me dit Shibaris Npei. Vanille, ça va? Tiens, il y a Alexia qui me dit qu'elle est prof. Si vous saviez les prénoms punaises. Ouais. J'étais en cours avec une prune. Ah ah. Non mais le nom des fruits, de fruits ça va moi. Je connais quelqu'un qui s'appelle Poireau. Me dit imagine, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Oh. Et on revient à la petite fille qui s'appelait Paille. Et il y a Agent Neymar qui dit si elle est petite, c'est courte paille. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est bien parce qu'il y a plein de gens qui font la même blague. Vous vous êtes appelé ou quoi? Il y a Lumière Soleil qui dit je m'appelle Clitorine et je le vis bien. Et il y a Soos qui dit je connais une fille qui s'appelle Clitorine. On ne le fait pas à moi. Hein. Voilà les blagues téléphonées là. J'appellerai mon fils Naruto, me dit Mathia. Réfléchissez quand même, hein. Réfléchissez, hein. Il y a vraiment des gens qui affirment qu'il y a des gens qui s'appellent Poirot. J'ai eu un Léonidas. Alors Léonidas, ça n'est pas qu'un chocolat. Hein. Léonidas, il y a des rois qui sont appelés Léonidas. Hein. C'est un prénom. Hein. Le problème, c'est quand il y a une marque qui s'empare d'un prénom comme ça. Mais Léonidas, c'est un roi. Hein. C'est pas qu'un... Ouais, oui, c'est ce que je trouve sur Internet. Là, hein. C'est pas que des chocolats. Hein. Ouais, il y a notamment eu, hein, par exemple, un Léonidas. Pourquoi il y a Google tout simple, là? Attends, j'ai dû merder, là. Léonidas. Tchouk. Hop. Voilà, Léonidas, premier de Sparte, par exemple. J'ai connu une fleur. Ah, moi aussi, j'ai connu une fleur. Moi, j'adore ce prénom, fleur, je trouve ça très joli. J'ai connu une fleur. Ouais, j'ai hâte de trouver ça très joli. Il y a Grégoire qui rigole, j'ai connu un garçon qui s'appelait Valérie. Bah, et Valérie Giscard d'Estaing, c'est qui? Bah, évidemment que ça peut être un nom masculin, surtout quand c'est avec un Y. Je connais un Valérie, moi. Bien sûr. On a une Beyoncé au lycée, me dit Alexia qui est prof, en m'affirmant que c'est la vérité. Oh là là, le Beyoncé, t'as intérêt à assurer hein, quand tu t'appelles Beyoncé. J'ai la cousine d'un ami qui s'appelle Shakira. On se régale. Ah, c'est dans un sketch clitorine. Ok, d'accord, je comprends. Du coup, pourquoi tout le monde fait la blague? Ok, d'accord. J'adore. Une amie de ma sœur s'appelle Neige. Ah, j'aime bien Neige. J'ai connu une clémentine. Moi aussi, j'ai connu une clémentine. Au moins deux. J'aime bien clémentine aussi. Les noms de fruits, ça va. Ma copine s'appelle Fleur, Pierre, tu vois, je ne savais pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce prénom. Comme le dit Baklava Pistache, c'est chou. Fleur. Oh, j'ai eu une diams là où je travaille. Putain, mais les parents, on peut penser quand même, hein. Je connais un Samuel. Trop la honte, quoi, me dit-on dans le chat. Scheherazade, très joli Scheherazade, Yanis. J'ai connu une Dalida. Oh, Dalida, j'adore, moi, Dalida. J'adore cette chanteuse. Maya. Bah oui, Maya. Maya, bah, c'est très joli, Maya. Moi, j'ai connu beaucoup de Maya. Allez, un dernier. Un petit dernier pour le plaisir, et puis on part sur la revue de presse. Alors, un qui nous fait sourire. Merci Didier. Merci Docteur Vanel. Merci Ougiraem. Merci Gros le Mage. Merci Anneux. Merci Bimbo Jet. Merci France Star à nouveau. Merci Quiche, puisque tout est parti de là tout à l'heure. Merci pour les abonnements. En fait, Samuel a connu beaucoup de femmes. Non, mais c'est. Comment dire? Tous les noms que je viens d'évoquer, c'est les noms d'amis. Un garçon peut avoir des amis filles. Hein, et tous les noms, sans exception, que je viens d'évoquer, ce ne sont pas des petites amies, hein, ce sont des amis. Moi, mes petites amies avaient des noms très classiques. Très classiques. Louise, j'aime beaucoup Ifatou. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme, nous dit Eden Blaster. Si, 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 ça existe. Ah, si, si, si. Si, 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 ça marche. Enfin, je veux dire ça. Si, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même très bien. Je cherche un dernier prénom qui nous ferait sourire. Ah, un Godzilla. C'est Choupi42 qui connaît un Godzilla. Ah, ça c'est bien. Sauf que c'est un chat, donc c'est moins grave. Ah, Sol, c'est joli, Sol. Sol, Sol, moi j'aime bien. Estas Labilas, j'ai connu un Sol à la maternelle. J'aime beaucoup Sol. Bon, allez. Loup, c'est joli, j'aime bien Loup. Bon, on est parti pour le sommaire. Hein. Merci, merci encore. Disco Shiny Nuts, le retour! Ah, je suis heureux! Merci beaucoup! C'est un de mes pseudos préférés, soyez pas jaloux les autres! Disco Shiny Nuts, merci pour le 18e mois. Merci aussi Didier. Allez, on y va pour le sommaire. Est-ce que j'ai votre go? Est-ce que j'ai votre yes?
Oh, yes!
Go! Go, 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 go! J'ai des go en pagaille. Albator, bâtard! Et le mien, tu l'aimes bien? Bien sûr, j'adore Albator. Je préfère Albator tout court, parce qu'Albator, bâtard. Ok, j'ai un Yes Baby Go. On est parti pour la revue de presse. Après 47 minutes seulement de stream, autant dire qu'on est sur un rythme intrépide, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par le Figaro. Pourquoi? Parce que le Figaro est l'un des journaux qui, il y en a d'autres, hein, qui reviennent sur l'interview présidentielle du président Macron hier midi à 13h, hein, dans les JT de 13h de TF1 et de France 2. C'était depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, puisque le président Macron est dans la région Pacifique pour 4-5 jours. Je croyais que c'était en. Moi, dans ma tête, c'était en direct, et puis j'ai appris en lisant la presse ce matin que finalement, c'était une interview qui avait été enregistrée un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il a dit pour ceux qui ont raté? Pas grand-chose, hein, il n'y a pas d'annonce très très forte. Pourtant, c'était une intervention assez attendue puisqu'elle arrivait au terme des fameux 100 jours. Hein. Le président Macron qui avait décrété 100 jours, 100 jours d'apaisement après la réforme des retraites. Bon, alors, les manifestations se sont terminées contre la réforme des retraites, les casserolades qui accompagnaient les déplacements des membres de l'exécutif aussi. Donc, apaisement, oui, apparemment. Dans les esprits, peut-être pas. Qu'est-ce qu'a dit le président Macron? Lisons un petit peu le Figaro. Tite Enclume a écouté l'interview du président et nous dit, je viens de l'écouter, interview un petit peu fort comme mot, vu les trois questions sans relance des intervieweurs. Ah bah ça, je suis pas surpris. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'étais assez sceptique sur la forme. Une interview du président en duplex avec le décalage provoqué par la liaison satellite, genre une ou deux secondes, interdisant la relance, l'interruption, la demande de précision, enfin la rendant en tout cas beaucoup plus compliquée, j'étais un peu sceptique. Donc comme vous me le dites, comme vient me le dire Tite Enclume, effectivement, en plus c'était pas en direct, c'était enregistré, sans doute pour pallier justement ce problème du délai provoqué par la liaison satellite. Hein, La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même de l'autre côté de la planète par rapport à l'Hexagone. Et ben, bah, du coup, ça a donné un truc pas très très rythmé. Je suis pas très surpris de ça. Ça, c'est la forme. Sur le fond, pas grand-chose, je vous le disais. Merci Dorothée 445 et Switch Off pour vos mois d'abonnement respectifs. Macron a invoqué l'ordre, hein, mais est resté assez évasif sur les émeutes Zoumont et Lison. Fraîchement arrivé en Océanie, où il entame une tournée de 4 jours. Le chef de l'État a donc répondu lundi aux questions de TF1 et France 2, un mois après les scènes de chaos, hein, qui ont touché le pays. Il s'est contenté de réclamer un retour de l'autorité à chaque niveau. L'ordre, 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 comme dit MMG7F. Et d'abord dans la famille, l'autorité parentale. Il a donné rendez-vous à ce propos à la fin de l'été pour ouvrir ce chantier de l'ordre, ce chantier de l'autorité, peut-être de l'autorité familiale. Bon, on verra à la rentrée ce qui se passe. C'est un petit peu flou quand même. Emmanuel Macron, qui par ailleurs a eu un mot aussi sur les policiers, des policiers actuellement qui, vous le savez peut-être, hein, sont remontés contre l'incarcération de l'un de leurs collègues, membre de la BAC à Marseille, qui est en détention préventive puisqu'il est soupçonné de violence illégitime. Les forces de l'ordre exigent la remise en liberté de leurs collègues, avec le soutien d'ailleurs de leur hiérarchie. Commentaire du président Macron hier, il entend l'émotion des policiers, tout en réaffirmant, on est un peu dans le en même temps là, que nul n'est au-dessus des lois. Donc il entend l'émotion des policiers, mais il rappelle que nul n'est au-dessus des lois. D'ailleurs, vous verrez que ces mots sont également à la une de Libération, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Le fait que les policiers puissent être au-dessus des lois. On va se pencher là-dessus dans un instant. Je continue avec Le Figaro, donc, est le journal pour moi qui relate le plus clairement les propos du président hier sur TF1 et France 2. Après les 100 jours, Macron met le cap vers la rentrée. Bon, on est tous là, hein. Nous aussi, on met le cap doucement vers la rentrée, là. Merci l'Extratovic pour le gentil message et le 19e mois. Ainsi s'achèvent donc les 100 jours. Il y a eu parfois des jours avec et parfois des jours sans, a dit Emmanuel Macron, comme nous. Hein. Comme pour dresser un bilan en demi-teinte de ces 3 mois pour apaiser le pays et relancer son deuxième mandat. Si les casserolades qui accompagnaient chacun de ces déplacements se sont effectivement arrêtées, l'ensemble des problèmes reste posé, à commencer par celui des émeutes urbaines ayant embrasé le pays fin juin, sujet déjà évité lors de sa prise de parole en ouverture du Conseil des ministres vendredi, une nouvelle fois contourné. Hein? Hier, lundi, si ce n'est pour appeler à revoir notre politique de répartition des difficultés pour soulager les quelques 500 villes où ces difficultés seraient concentrées dans les mêmes quartiers, selon les mots du président. C'est vrai que sur la question des émeutes urbaines, le président Macron, pour l'instant, est quand même assez prudent et pas très bavard. La leçon que j'en tire, a déclaré le président hier, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Et d'abord dans la famille, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale, Ce n'est pas à l'éducation nationale, encore moins à la police, de régler le problème de police, justement. Il en a aussi été question après les propos de son directeur général. On va y revenir dans un instant. Je reviens juste un truc sur un truc technique, pour pas que la personne reste avec sa question en l'air. C'était quelqu'un qui s'interrogeait sur le délai satellitaire. Je l'ai perdu. Est-ce que je vais le retrouver? Oui, car c'est pas mal l'excuse du délai satellite en 2023. Il y a la fibre jusqu'en Nouvelle-Calédonie. On fait des visios sans délai en 4K si besoin. Écoute, je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais moi je te confirme qu'à France Télévisions, à France Info notamment, quand on fait des duplex avec nos journalistes, et quand ils sont très 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 loin, il y a souvent un délai en fait, un petit délai d'une seconde, voilà. Et voilà. Alors à quoi ça tient? Peut-être. Je me hasarde à une explication. Vous me parlez de la liaison internet, tout ça, et tout. Je pense qu'en télévision, notamment en direct, quand on veut s'assurer la stabilité maximum d'une liaison, hein, pour un direct ou une interview, peut-être que la liaison satellite est plus stable ou de meilleure qualité en termes de débit, image, son, peut-être qu'internet, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est l'hypothèse que j'émets. En tout cas, à France Télévisions, quand on veut un duplex de qualité, il est calé par satellite en fait. Il n'est pas calé par internet, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais bon, je ne suis pas sûr de mon explication. Pour les questions de sécurité informatique, peut-être, je sais pas. Donc je reviens au propos du président Macron. Après, alors ça c'est super important. Les propos de son directeur général de la police, Frédéric Vaux, qui a donc déclaré dans Le Parisien d'ailleurs dimanche dernier. Le directeur de la police nationale, qu'un policier, c'est des mots assez forts, hein, n'avait pas sa place en prison avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès. C'est-à-dire qu'un policier n'a pas à être mis en détention préventive, comme les autres prévenus, dans des affaires, a estimé le directeur de la police nationale. C'est lunaire, commente à l'instant Spatule. C'est aussi l'avis de Libération, on le lira. C'est scandaleux, dit Zali. Pourquoi le directeur de la police nationale a dit ça? Ben c'est en référence à l'agent marseillais de la BAC, placé en détention provisoire pour les soupçons de violence illégitime en marge des émeutes, et dont la hiérarchie demande la remise en liberté. Donc pas seulement ses collègues, hein, il y a beaucoup de policiers à Marseille qui se sont fait porter pâle, qui sont mis en arrêt maladie, pour protester contre cette détention, mais également ça... hiérarchie. En rappelant que 900 policiers ont été blessés lors des émeutes et que les forces de l'ordre ont été confrontées à une violence extrême, Emmanuel Macron a souligné l'importance d'entendre cette émotion des policiers. C'est ce que dit le président Macron. On va revenir à cette histoire avec Libération qui est assez choqué en fait par les propos de ce directeur de la police nationale. Sinon, bah, y a la rentrée. Le président a beaucoup évoqué la rentrée. La rentrée à laquelle le président ne cesse de se référer s'annonce difficile toutefois. Bon, c'est pas tellement surprenant puisqu'il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée, hein, avec deux textes qui arrivent sur lesquels les opposants de l'exécutif sont prêts à engager le bras de fer. Il y a le budget et la loi immigration. Si je me souviens bien, le budget de l'an passé, il est passé avec le 49-3, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voici le dossier de Libération. Libé qui est un peu en colère après ces propos du directeur de la police nationale, hein, sur le fait que un policier n'aurait pas sa place en prison, en détention préventive, avant un procès. Un agent n'a pas sa place en prison, ce sont les mots du patron de la police nationale que vous voyez à gauche sur cette image. Police, la police est-elle au-dessus des lois, se demande Libération. L'état de droit empêche la police de dormir. Les propos dans Le Parisien du directeur général de la police nationale Frédéric Vaux, contestant la détention provisoire d'un agent, sont applaudis par les principaux syndicats de la profession. Il y a beaucoup de réactions politiques diverses à ce propos, dont la majorité gêne et cacophonie domine. Je vous lis l'article, et puis on fera un sondage là-dessus. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ces propos du directeur de la police nationale sur le fait qu'un policier n'aurait pas sa place en détention préventive. Lisons. Top. Et buvons aussi. pour nous hydrater et nous caféiner. Le problème de la police, c'est la justice. Ça, c'est le mantra, selon Libé, du syndicat Alliance Police Nationale, qui est marqué à l'extrême droite pour Libé, qui a infusé jusqu'aux plus hautes sphères de l'appareil sécuritaire, qui flirte depuis dimanche avec la sédition contre son homologue de la justice. C'est ce dont témoigne l'interview, la fameuse interview du directeur général de la police, Frédéric Vauque, publiée dimanche par Le Parisien, invité à s'exprimer sur le placement en détention provisoire d'un agent de la BAC de Marseille, mis en examen pour des violences volontaires aggravées ayant causé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, le premier flic de France a donc déclaré que l'incarcération d'un fonctionnaire dans le cadre d'une procédure pénale l'empêchait de dormir. Et le DGPN, donc directeur de la police nationale, de dessiner un régime juridique d'exception. Hein, pour les forces de l'ordre, de façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail, dit ce monsieur. Hollywood et Bastoufre, merci beaucoup pour vos soutiens. Déclarations qui ont reçu l'approbation de la hiérarchie policière, mais aussi de l'exécutif, estime Libé. Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, a fait preuve en tout cas d'un étonnant mutisme, laissant son cabinet dire que le 2GPN a toute la confiance du ministre. Merci Latote, merci beaucoup. Depuis la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a refusé de commenter les propos du directeur général de la police, insistant sur l'émotion qu'il y a chez nos policiers qui ont le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême durant les émeutes. Insistant aussi sur le droit à la présomption d'innocence, le chef de l'État a quand même fini par rappeler que les forces de l'ordre s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Donc on est un peu dans un en même temps, il faut entendre l'émotion des policiers, mais on est toujours dans le cadre d'un état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi, a-t-il conclu. Service présidentiel minimum, estime Libé, qui n'a pas calmé une gauche très remontée depuis dimanche pour dénoncer tout ça, à l'image du patron du PS, Olivier Faure, qui dénonce des propos gravissimes venant des sommets policiers. Sur ce sujet, et puis on va faire un petit vote, un dernier mot, celui de la secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'appelle Magali Lafourcade, qui s'indigne de ces propos de la hiérarchie policière en disant « Quand je lis que le DGPN ne peut plus dormir la nuit, parce qu'un policier était en détention provisoire, je suis profondément heurté. Ce qui devrait l'empêcher de dormir, c'est que les policiers puissent se comporter comme des délinquants. » Bon, je vais vous faire un sondage tout simple. Alors ça, c'est là. Selon vous, un policier donc je reprends les mots du directeur de la police nationale, un policier n'a pas sa place en prison. Comprenez, en détention préventive, dans l'attente de son procès. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Je vais en faire simple, hein. Pas d'accord. Je fais simple, je fais basique, et je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis aussi, hein. Voilà. Un policier n'a pas sa place en prison. D'accord. Pas d'accord. Je ne sais pas. Deux minutes. On a la folie sondagière ce matin, c'est le deuxième sondage. Ben, mais c'est la une du Parisien, vous voyez. Voir les résultats. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il y a Fifir31 qui nous rappelle que la détention provisoire consiste à incarcérer une personne présumée innocente qui n'a pas encore été condamnée. Elle est ordonnée, merci Fifir, par le juge des libertés de la détention, elle a pour fonction de protéger le bon déroulement de l'instruction. Merci Fifir pour ce rappel, pour ce cadre. Là, tu vois, il y a Xov qui demande qu'est-ce que la détention préventive, tu viens d'y répondre parfaitement. Il y a Sacho qui dit je débarque, je vois que c'est déjà très sérieux ici. Bah oui, on est sur des choses sérieuses, hein. Parfois on essaie d'en sourire, mais. Alors on va afficher le sondage, mais je le laisse se dérouler parce que je ne veux pas que le résultat influe sur votre vote. On est à plus de la moitié déjà. Si vous ne voyez pas le sondage, vous faites F5 sur votre PC et boum, vous le voyez. Et on l'affiche le sondage puisqu'on est quasiment à la fin là. Et ça donne ça. Voilà. Un policier n'a pas sa place en prison. Vous n'êtes que 9% à être d'accord avec ces propos du directeur de la police nationale. Et vous êtes 84% à pas être d'accord avec ces propos. Voilà. Voilà. Il y a Cletus Bright, salut, qui commente l'état de droit est l'une des dernières barrières de la démocratie. S'il saute, c'est le boulevard pour l'autoritarisme, voire pire. Voilà. Manifestement, vous êtes d'accord avec cette analyse. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Le résultat du sondage est extrêmement clair. Vous voyez que c'est la une du Parisien, hein, cette histoire. Merci Place du Paradis pour le 18e mois. Merci encore la Totte pour ton gentil message. C'est aussi à la une du Parisien, hein, le patron de la police fâche la justice. Je vous lis aussi cette petite analyse du Parisien, puis après on partira en Espagne, on partira en Israël. Macron percuté par la colère policière, c'est peu dire que la sortie de Frédéric Vaux, donc le directeur de la police, hein, accueillit à froid le président. Ah oui, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant ça, le Parisien ajoute une autre histoire dans l'histoire. C'est peu dire que la sortie de Frédéric Vaux a accueilli à froid le président, et pour cause, écoutez bien. Le président a découvert ce texte, donc cette interview, hein, où le directeur de la police nationale prononce ces mots, lors de son escale à Osaka, au Japon, donc c'était une escale technique sur le chemin de la Nouvelle-Calédonie, voilà, et il découvre cette interview. Il découvre, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, c'est quand même le directeur de la police nationale. C'est quand même le président de la République. Or, l'interview a, selon nos informations, dit le Parisien, bel et bien été validée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et relue par son directeur de cabinet. Mais sans que l'Élysée, ni même Matignon, n'aient été mis dans la boucle. C'est un petit peu étonnant. Et ce, alors que le chef de l'État est Gérald Darmanin voyageait ensemble dans l'avion vers Nouméa. Si Darmanin l'a vraiment fait dans le dos d'Emmanuel Macron, c'est pire qu'un affront, s'étrangle un conseiller gouvernemental. Alors pourquoi? Alors si c'est vrai, c'est vrai que c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Peut-être même que le président Macron s'est un peu mis en colère. Peut-être même qu'il a lancé des cacahuètes ou du jus de tomate dans l'avion, parce qu'on consomme beaucoup de ces genres de choses dans l'avion. Et alors, ceci expliquant cela, le Parisien nous rappelle que Gérald Darmanin s'était positionné, hein, pour aller à Matignon pour devenir Premier ministre avant le dernier remaniement, et que finalement le président Macron a décidé de maintenir Élisabeth Borne. Donc il sera un peu en colère, il est amer, dit le Parisien. Darmanin est en colère, il est amer, et peut-être que c'est sa façon de notifier, d'exprimer sa colère. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est tendu. Il y a un petit peu de la friture sur la ligne entre la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, et l'Élysée. Voilà. Est-ce que c'est toi qui invente le coup des cacahuètes, me demande Bladavia. Oui, c'est de l'interprétation. Je n'étais pas dans l'avion et je ne sais pas s'il y a eu lancé de cacahuètes ou de jus de tomate. Voilà, je ne sais pas. Mais voilà, là, c'est tendu, hein. C'est tendu. Ambiance dans l'avion. Gérald, faut qu'on parle. Attention, hein, ça c'est je crois savoir le Parisien. Bon, il faut vérifier cette info. Mais le Parisien est assez affirmatif en disant que Darmanin a été au courant, a validé cette interview et que le président Macron n'était pas au courant. Voilà ce que dit le Parisien. Ouh, joli. Darmanin ne serait-il pas en train de préparer le même coup que Macron a fait à Hollande, demande Aéré Twitch. Hein, et quand Macron s'est déclaré candidat à la présidentielle, ancien ministre des Finances d'Hollande, est-ce que Darmanin songerait le matin, et pas seulement en se rasant, à une éventuelle campagne à la présidentielle? Voilà. Bon, la différence, c'est que là, Macron ne peut pas se présenter, par ailleurs. Non, bah d'ailleurs, c'est ce que Clamakine vient d'écrire à l'instant, les grands esprits se rencontrent, sauf que Macron ne peut pas se représenter, on est d'accord que c'était pas tout à fait la même situation. Sauf s'il change la loi, mais Stel, non, c'est pas possible. Je ne peux imaginer, on va aller en Espagne dans un instant, je ne peux imaginer que le président Macron puisse changer la loi pour permettre... lui permettre de se présenter à un troisième mandat. C'est-à-dire cette espèce de changement de règles du jeu politique en cours de parti, ça c'est vraiment... ce serait démocratiquement choquant, en fait. Voilà. Voilà, non, ça j'y crois pas, ça. Mon côté un petit peu naïf et optimiste, mais je pense que ça ne peut pas arriver. La loi étant la Constitution, effectivement. On voit ça dans certains pays. Je n'ose imaginer que ça puisse se passer dans un pays comme la France. Voilà. Oui, c'est ça. Brininis dit, c'est quoi la règle? Pas plus de deux mandats consécutifs, donc Macron peut revenir pour 2032. Tout à fait, tout à fait. C'est, la règle, c'est pas plus de deux mandats consécutifs. Donc il peut revenir après, bien sûr. Hein. Tout à fait. Merci Delawin pour le 12e mois. Et on enchaîne, et on va parler de poétique aussi, mais on va apprendre un petit peu, sinon de l'air, en tout cas de la distance, puisqu'on va aller en Espagne et en Israël. En Espagne d'abord avec le Figaro, ici, Pachis, parce qu'il y avait des élections très importantes, législatives, dimanche en Espagne. Je vous rappelle la situation, deux blocs s'opposaient, la gauche qui était au pouvoir depuis 5 ans et la droite et l'extrême droite de l'autre côté. Les sondages donnaient la droite et l'extrême droite, c'est le parti Vox, la droite c'est le parti PP, parti populaire, très en avance dans les sondages. Et alors est-ce que les sondages se sont trompés ou est-ce que les électeurs de gauche se sont énormément mobilisés malgré l'été, malgré les vacances en tout cas? La gauche a fait un bien meilleur résultat que prévu et la droite et l'extrême droite bien moins bon. Après la législative, l'Espagne plonge dans l'imbroglio politique, nous dit Le Figaro. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de majorité. Ça nous rappelle un autre pays. Il n'y a pas de majorité absolue au Cortes, donc le Parlement espagnol. Donc, c'est un petit peu flou. C'est le gros dossier de l'humanité ce matin que je viens de vous mettre ici. Wesh le S, me dit Joe Coco. Comment ça va, Joe? Les chiens, j'ai pas de nouvelles de notre livraison de matériel avec Joe. On a investi dans plein de matos là pour la rentrée. On va tout casser, son, lumière, image. Et donc j'ai pas de nouvelles. Ok, bon, j'en saurai peut-être plus tout à l'heure. Voilà. On a investi son, image, lumière. Oh là là là. Franchement, bon, l'idée c'est de continuer à améliorer la qualité de tous nos rendez-vous. Hein, les émissions, on reçoit des invités notamment là. Je peux vous dire que là, en termes de matos, son, image et lumière, très important à la rentrée sur l'hebdo Étienne et Simplet. Studio de qualité, comme dit Joe. Ouais, exactement. Et petit four, ouais. Non, mais en vrai, là, j'ai vraiment investi et on est accompagné par des professionnels. On a une équipe d'ingé son qui est en train de nous accompagner pour l'investissement en son. Notamment, je dis ça mais je dis rien, pour peut-être passer les quatre invités de l'hebdo Étienne en micro HF, cravate. Tiens, c'est marrant parce qu'il y a une petite polémique en ce moment autour du micro cravate, c'est rigolo. Pour voir si ce serait plus sympa visuellement en termes de liberté de mouvement aussi pour les invités. Bon voilà, petit investissement avec une nouvelle console, etc. Et puis en termes de lumière, j'ai un copain qui travaille en télévision, qui est un des... qui est un des meilleurs de la place de Paris pour l'installation lumière sur les plateaux télé, voilà, un garçon qui travaille notamment pour France Télévisions, et qui vient me faire la lumière du studio avec du matériel un peu pro, semi-pro et tout, donc ça investit, donc vos subs ne servent pas à rien, hein, c'est voilà, gros investissement quoi. Est-ce qu'il y aura des lance-flammes derrière Papy Sam? Non. Voilà. Mais voilà, donc petite parenthèse pour vous dire que on continue à bosser. Merci But le Cham qui donc participe à l'achat du matériel avec ce 7e mois d'abonnement. Merci Spatule 69 pour cet abonnement. Même chose. vous inquiétez pas, France Info, si le matos disparaît. Non, j'ai la facture, je peux vous dire que tout ça, je l'ai acheté. Et ça coûte cher. Bordel, nom de Dieu! Donc l'humanité se penche sur les législatives en Espagne. L'échec de la droite dure, puisqu'effectivement les sondages, vous voyez, la droite et l'extrême droite beaucoup plus haut dans les résultats. Coupé en deux, une Espagne sans majorité absolue, c'est ce que je vous disais. Le scénario d'une victoire de la droite et de l'extrême droite a été déjoué. Pour autant, la gauche, qui fait mieux que résister, n'est pas certaine de pouvoir constituer un nouveau gouvernement. C'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il faut que je vous remette l'article. Excusez-moi, j'ai oublié. Voilà, la une de l'UMA et l'article que je suis en train de vous lire. Le Parti Populaire, le PP, hein, donc ça, c'est la droite, les conservateurs espagnol, le PP a gagné, mais pas vraiment. Le PSOE, donc c'est le Parti Socialiste Espagnol, a perdu, mais pas vraiment, résume l'humanité. Une soirée électorale particulière pour une peu banale configuration politique. Le scénario annoncé comme le plus probable par les derniers sondages, donc victoire du Parti Conservateur aidé par la formation d'extrême droite Vox, a été déjoué par un surplus de mobilisation des électeurs de gauche. Hein, c'est ce que je vous disais. Mais pas suffisamment pour que le gouvernement de coalition, donc de gauche sortant, puisse être à coup sûr reconduit. Alberto Núñez Feijóo ne sera donc pas Premier ministre, a priori. Donc ça, c'est la droite. Pedro Sanchez pourrait rester après 5 ans d'exercice du pouvoir, mais c'est pas sûr non plus. En cas de majorité introuvable, eh bien les Espagnols pourraient être, comme c'est arrivé en 2019 d'ailleurs, de nouveau appelés aux urnes. Donc, nouvelles élections, ce serait en novembre ou en décembre. Je trouve que le dossier de l'UMA résume très très bien la situation. Je voulais un petit peu sur l'Espagne, peut-être. Est-ce que l'Espagne, c'est bien une monarchie constitutionnelle comme la Belgique ? Je dirais comme la Grande-Bretagne aussi. Oui, c'est ça, c'est une monarchie parlementaire, quoi. Avec, une famille royale, mais qui n'a que des pouvoirs, symboliques. Et la réalité de l'exercice du pouvoir qui est confiée à des politiques, dans le cadre d'un système parlementaire, avec un Premier ministre, un chef de gouvernement qui détient son autorité directement de la confiance venant du Parlement. Il y a Luxor 18 qui s'est déchaîné là pour dénoncer ce live de gauchiste et qui a été banni par les modos. C'est vrai que c'est énervant quand même. C'est un peu live de gauchiste, c'est pas si méchant. Je comprends que ça puisse énerver, mais comment dire, c'était bon. Je pense que c'est plus de certains commentaires du chat. Dites-moi que c'est un ban provisoire de Luxor quand même. Non, c'est un ban def. Ça vaut pas un ban def. Mettez un ban provisoire à notre ami Luxor, donc qui s'est exprimé de façon un petit peu brutale, bon, par rapport à certains propos dans le chat, mais vous savez que j'ai vu les messages, je suis allé sur l'historique de Luxor, j'ai vu, t'inquiète. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu violent. Alors, j'essaie d'appeler au calme. Luxor 18, tu reconnaîtras que la dernière partie de ton message sur l'histoire de l'incendie là est un peu extrémiste. Donc, je t'appelle à l'apaisement, au calme. Ici, je vous rappelle, oui, French Yu-Gi-Oh, je comprends. C'est pas le live de gauchiste qui m'interpellait, c'est la suite des propos. Oui, tout à fait, je comprends. Que dire ? Ici, on accueille toutes les opinions et on appelle les gens de sensibilités différentes à discuter, à échanger ensemble, mais dans un cadre apaisé. Voilà, en se respectant les uns par rapport aux autres. Pour le coup, alors c'est pas trop le live de gauchiste qui a provoqué le ban. Ici, c'est une deuxième partie que je ne veux pas vous lire, qui est quand même ultra violente, quoi. Donc, j'appelle ce ban def à se transformer en ban provisoire. Et Luxor 18 a apaisé ses propos. On peut ne pas être d'accord, mais il faut l'exprimer de façon apaisée, puis au moins légale, parce qu'il y avait quand même un appel à violence dans tes propos là, qui est pas acceptable. Donc j'espère que tu le reconnaîtras et que quand tu reviendras, tu feras attention à la manière dont tu t'exprimes, quoi. Voilà, on est d'accord, on fait ça. Allez, je continue l'article de l'Huma sur la situation. Merci les modos, vous faites un super boulot. Mais je le dis vraiment très sincèrement parce que je fais une petite pause là-dessus. Bon, il y a Modo, ok, modérateur sur Twitch, c'est vraiment un pilier essentiel de l'activité des streamers et des streameuses. Hein. Sans vous, il n'y a pas de stream. Hein. Voilà, pour faire respecter les règles de l'échange. Sauf que sur une chaîne d'actualité, où on parle de tous les sujets qui fâchent, tous les jours, je pense que c'est beaucoup plus dur que sur la plupart des autres chaînes. Voilà. Parce que des sujets qui énervent, des sujets qui mettent en colère, des sujets qui fâchent, bah, je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça, tout le temps. Et vraiment, chapeau, GG aux modos qui vivent ça au quotidien et qui, non seulement doivent faire un petit peu bah, la police, quoi, mais en plus doivent s'interroger toujours sur, alors est-ce que c'est de l'humour, pas de l'humour, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable, est-ce que je l'avertis, est-ce que voilà. Et les modos font un travail de fou, hein, parce qu'ils sont sensibilisés à une modération un peu fine, un peu voilà, et ils envoient des messages en DM aux gens qui ont des comportements un peu problématiques pour essayer d'expliquer, voilà, et puis émettre des avertissements, des bans provisoires. Le ban def ici, il faut vraiment aller le chercher et être un peu en mode irrécupérable ou troll, quoi. Donc voilà, vous faites un boulot de fou. Voilà, et d'excellente qualité, donc un grand merci. D'ailleurs, je vais vous remercier nominativement. Merci Broubou06, Captain McBernick, French Yu-Gi-Oh, Julo18, Original Pimous, Takayov et bien sûr l'ami Nightbot qui fait un très bon boulot également. On continue l'article de Bon anniversaire, cœur ardent, 30 ans aujourd'hui, de l'Humanité sur l'Espagne. Le leader du Parti populaire entendait transformer le scrutin du 23 juillet de dimanche en référendum sur la politique de gauche, hein, qui a été menée pendant 5 ans, que l'Humanité rappelle. En estimant que ces mesures demeurent très populaires auprès des Espagnols, augmentation du salaire minimum de 47%, instauration d'un revenu minimum vital, indexation des pensions de retraite sur l'inflation, réforme du marché du travail pour faire reculer la précarité. Il y a une loi sur l'euthanasie aussi. Voilà. Mais depuis l'éclatement du bipartisme en 2015 en Espagne, le Parti populaire, donc la droite, doit compter avec quoi ? Avec Vox, l'extrême droite, fondé par certains dissidents du PP qui prônent Vox, une idéologie d'extrême droite totalement décomplexée, explique l'Humanité, négation du phénomène de la violence machiste, due à la réalité du changement climatique, tant qu'à faire, culture de la haine de l'immigration. Le leader du Parti populaire, la droite traditionnelle, a joué cette carte de l'alliance dans pas mal de régions avec Vox, voilà. Et le problème, et c'est ce qui explique peut-être le résultat de ces législatives, d'après les sondages, 65% des Espagnols sont défavorables à ce type d'alliance entre la droite et l'extrême droite. 51% sont même très défavorables. La puissance du rejet, donc de cette alliance droite-extrême droite, est beaucoup plus forte que celle s'opposant à la reconduction de la coalition de la gauche, ce qui explique peut-être pourquoi les électeurs de gauche se sont beaucoup mobilisés pendant cette élection. Bien que se déroulant en pleine période estivale, cette élection générale a plus mobilisé que le précédent scrutin de novembre 2019, une participation de 70,4% à des législatives, ce qui est un score plutôt important. La question que je me pose ce matin en lisant ce qui se passe en Espagne, c'est que pensent les Français ou que penseraient les Français d'un éventuel rapprochement entre la droite et l'extrême droite en France dans le cadre de prochaines élections présidentielles, législatives. Je ne suis pas le seul à me poser la question. 47, Alexia, je vois que tu en parles également dans le chat. Voilà. A priori, les Espagnols semblent opposés à cette alliance. C'est ce que dit des sondages, c'est ce que dit aussi le résultat de la législative de dimanche. Est-ce que c'est le cas en France? Alors certains disent c'est déjà le cas. Bah non, non. Là, je parle d'un rapprochement formel exprimé entre le RN de Marine Le Pen et les Républicains. Voilà. Voire même entre la droite républicaine traditionnelle et Éric Zemmour, par exemple. Voilà. C'est de ça dont je parle. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Ça, qu'en penseraient les Français ? À suivre. Mahmoud 14, merci pour ce prime. Soleil, merci pour le 17e mois. Merci beaucoup. Allez, je vous emmène toujours à l'étranger. Après l'Espagne, on va en Israël. Je vais faire un petit café bientôt, moi. Merci Bunny pour le gentil message. Alors, en Israël, donc bah, ça fait un moment, hein, ça fait 30 semaines, on l'a vu dans la presse hier, 30 semaines que Israël connaît des manifestations d'Israéliens et d'Israéliennes contre une réforme de la justice très controversée portée par le gouvernement Benjamin Netanyahou. Et il y a eu une étape importante hier, puisqu'il y a un article essentiel de cette réforme de la justice qui est passé, qui a été voté à la Knesset. La Knesset, c'est le Parlement israélien. Le projet de Netanyahou, adopté, toujours contesté, nous dit l'Humanité, page 13 ce matin. Les députés de la Knesset ont donc voté hier une mesure clé de cette réforme judiciaire qui est portée par l'actuelle coalition droite extrême droite hein, de l'histoire du pays d'Israël. Le gouvernement actuel est le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Aucun miracle ne s'est produit à la Knesset, personne n'en attendait, écrit l'UMA ce matin. Le Parlement israélien a donc voté hier après-midi cette réforme de la justice qui prévoit plus aucun garde-fou pour le pouvoir exécutif. Le seul contrôle de l'exécutif existant dans ce pays sans constitution qui est Israël, qui est justement le pouvoir du contrôle judiciaire. Depuis lundi, les juges de la Cour suprême ne peuvent plus se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Ça peut faire sourire un petit peu ça, mais en fait c'est le fait que la Cour suprême jusqu'à aujourd'hui était une espèce de gardien moral d'Israël en lien avec les valeurs fondatrices du pays, de son histoire, et pouvait de temps en temps dire bah, cette loi, non, c'est pas possible par rapport aux valeurs, aux fondations de notre pays. Voilà. Donc ça donnait un pouvoir très très fort à ces juges. Mais c'était un petit peu la seule limitation au pouvoir de l'exécutif en Israël, une forme de contre-pouvoir. Les contre-pouvoirs dans une démocratie, c'est important. Voilà. Donc ça saute. Voilà. C'est ce que voulait Netanyahou. Le texte est en train de passer. Et la colère populaire, hein, 30 semaines de mobilisation, de manifestation, ça se poursuit. Je lis la fin de l'article. Le mouvement de protestation qui a atteint une mobilisation inédite et historique devrait se renforcer selon l'UMA. Les manifestants anti-gouvernementaux se trouvaient à l'extérieur de la Cour suprême hier. Ils dénonçaient l'adoption de la loi par la coalition gouvernementale, criant honte et démocratie et rébellion. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que, malgré le fait que le texte soit passé, les manifestations, la mobilisation va se poursuivre en Israël? Ça, je ne sais pas. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a de nouvelles élections bientôt en Israël et que les électeurs désavouent l'actuelle majorité qui a porté cette réforme de la justice. Voilà, donc ça... Voilà. En tout cas, c'est passé, quoi. Oui, quelqu'un me demande... Je vous l'ai pas lu, mais comme je vois la question, quelqu'un me demande est-ce que c'est néo ou avec, est-ce que les juges peuvent pas rejeter le texte du coup si la Cour suprême peut encore demander l'annulation de cette loi puisqu'elle a été saisie sur ce point par une association qui est opposée au texte. Donc ça, c'est à suivre aussi. Ouais, Funeral Police, Israël qui vient de reconnaître la légitimité du Sahara marocain, tout à fait. Ça s'est passé il y a quelques jours. Bon, on va revenir en France dans un instant avec Le Parisien, avec la fin du ticket de caisse. Mais je vais aller me chercher un petit café. Je ris parce qu'il y a Captain Bouchon qui écrit j'ai mal vu, mais j'ai cru un instant que Samuel s'était léché le doigt pour tourner la page de la tablette. J'ai ri fort. Alors, oui, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne me lèche pas trop les doigts. J'ai d'autres défauts, mais je ne me lèche pas trop les doigts. Et encore moins pour passer les pages de ma tablette. Voilà. Donc, un jour, oui, un jour prochain, l'âge venant, une forme de sérénité, vous me verrez sans doute effectivement mouiller le doigt pour tourner les pages, vous me verrez mettre du stabilo directement sur l'écran, mais à ce jour, ça va encore. Donc, dans un instant, on parle de la fin du ticket de caisse en France pour des raisons écologiques, on verra ça, ça va commencer le 1er août. Je vais juste aller chercher un petit café parce que je sens que mes neurones sont en train de s'endormir. Je vous mets une petite musique avec ma nouvelle appli de musique libre de droit, là. Tiens, est-ce que c'est bien ça? Pas mal, ça. T'es pas fait chier au niveau des paroles, lui, hein? Quand même, ça. Alors, ok, je vous mets ça, c'est plutôt sympa, un petit truc un peu pop rock, là. J'aime bien. Je reviens dans 3 minutes, le temps de me faire un petit café. Je suis pas réveillé là. Faut aller chercher mon café. Musique pour les abonnés, petite pub pour les autres, ça va me payer le café. Et je reviens dans 3 minutes, max. Là, de toute façon, le titre fait 3 minutes pour vous lire la suite des journaux. A tout de suite, bande de belles personnes. Paf. Et. Oh, ah merde, j'ai perdu la morceau. Il est où? C'est ça? Ouais, c'est ça, tout de suite. Vous avez bien aimé celle-là ou pas? Vous voyez, je mange des céréales qui croustillent. Je la mets dans mes favoris ou pas? Celle-là. On est bien aimé. Ouais, ok. Bon bah je fais ça. Parce qu'il n'y a plus la musique libre de droit proposée par Twitch là. Je me suis abonné à un site. C'est un peu différent. Je la mets dans mes likes. Je la mets dans ma playlist. Ma playlist Rock Sam. Voilà. Le nom du groupe s'appelle... C'est un chanteur qui s'appelle Ryan. Pas Rayou, hein. Ryan, R-Y-A-N, Gilmore. G-I-2-L-M-O-R. Ryan Gilmore. In my blood. In my blood. Le titre. Quelqu'un l'a mis dans le chat, là. Voilà. Désolé, je fais du bruit avec ma bouche. C'est un des défauts de ce stream. L'horreur des bruits, des Dixon. Mais ça croustille. Je suis levé depuis 5 heures, je suis en manque de sucre. Ah bon? C'est pas des croquettes, c'est des céréales. Je suis dégoûté, il y a trop de gens heureux ici, dit Martial. Ça me fait plaisir ce que tu dis parce que on essaye de passer des bons moments et d'être tranquille, d'être cool, quoi. Et vous le faites très bien. Pourquoi tu te lèves si tôt maintenant? Bah pour lire les journaux, parce qu'avant de faire la revue de presse, il faut les lire. 5 heures, c'est bien. Caradoc, tant que tu ne fais pas de bruit avec une autre partie de ton corps, ça me va. Je pète parfois. Hein. Je pète, mais je pète avec talent. Je pète assez discrètement. Hein. Donc, sauf une fois, au Stade de France, enfin bref, je faisais un stream caritatif. Où là, je pense que j'ai dégrillé. Enfin, j'avais quand même 3 invités. Et ici, je pense que j'ai jamais été pris sur le fait. Voilà. On fait tout ça, hein. Des petits pas silencieux en société. Après, faut que ce soit maîtrisé, hein.
Merde, hein.
Monsieur... Aïe, je me suis roulé sur le pied. Vous m'excusez, j'ai mis les céréales par terre. Bon, je les retrouve pas, ils sont dans les plis du tapis. Ah, je me suis roulé sur le pied, quoi. Désolé. Parce que je suis pieds nus, c'est l'été, c'est un peu l'été, quoi. Bon, tout le monde fait ça, hein. Tout le monde pète discrètement en société, hein. Non? Vous pétez en société discrètement ou pas? Camille écrit, ma soeur m'a fait croire jusqu'à très tard qu'elle ne pétait jamais. Donc ça veut dire que même les filles pètent. Ah ça je sais pas ça, c'est pour moi c'est un vrai mystère. C'est vrai qu'on les entend moins souvent quand même. Ou alors elles sont plus discrètes quoi. Est-ce que t'as déjà pété en interview? Il y a Tire-moi dessus qui demande ça, mais est-ce que t'as déjà pété en interview? Peut-être pas en interview. Sana est une fille a priori, elle me dit oui je pète. Voilà, moi je crois, en la matière... Je crois que le seul interdit, désolé, on est parti sur autre chose, mais je pense que le seul interdit en matière de paix, de prout, de flatulence, c'est l'ascenseur. Voilà. Ça, c'est vraiment pas sympa. C'est-à-dire péter dans un ascenseur juste avant de le quitter, là, pour à l'idée de voilà. L'idée de que les utilisateurs suivants de l'ascenseur puissent être confrontés à ce nuage toxique, c'est pas cool. Ça ne se fait pas. Voilà. Dans les transports en commun aussi, ah bah oui. Oui. Ouais. Ouais. Sous la couette avec ton ou ta partenaire, c'est pas ouf. Ah oui aussi. Ah aussi, on est d'accord. Oui, non, mais oui, vous avez raison. J'ajoute cette règle aussi. Ah, 29 nous dit, il y a une étude qui montre que les couples qui n'ont pas peur de péter entre eux durent plus longtemps. Avec mon épouse, c'est pour la vie, donc ça pète pas mal chez toi. Pourquoi pas? Dans le tram aussi, s'il vous plaît, pitié, arrêtez, dit Sarah. En lettres capitales, vraiment. Donc ça semble être du quasi quotidien. Hein. D'accord. C'est vrai. Les gens pètent dans les transports en commun? 16 mois, Officer Tenpenny, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci encore, ils ont dit, et Clément Polito. Et Arnaud, je ne vous ai pas remercié tout à l'heure, merci beaucoup à tous les trois. Dans les réseaux, dans les transports en commun, les gens pètent? Nitram n'est pas d'accord avec le paix au lit. Hein. La règle pour Nitram, c'est si tu pètes dans mon lit, tu sors de ma vie. Voilà. Babos nous explique, mon copain pète sous la couette et me bloque dessous. Ok. Ok. Broubro 06, perso, je pète dans mon bus. Vu comment les gens puent. Ok, d'accord. Ok. Nanou la niçoise, quand j'étais petite, j'éclatais les boules puantes avant de descendre du bus. Oh, mais vous êtes des délinquants, vous êtes des criminels. On peut pas tout le temps se retenir. Alors là-dessus, néo ou avec, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis un partisan du prout, moi. Je suis un partisan du bête. Je vous explique pourquoi. En fait, le corps est, donc, émet des gaz, produit des gaz, et c'est pas bon de les garder. C'est pas bon pour le ventre, pour la digestion, pour plein de choses en fait. Le gaz, il est fait pour sortir. Donc il faut le faire sortir. Après, il faut le faire sortir de façon plus ou moins discrète et élégante, mais il faut que ça sorte quoi. Les gens qui retiennent leur gaz, hein, c'est une catastrophe en termes de santé. Hein. Donc il faut roter, il faut péter. Voilà. Après, bon, il faut encadrer un peu cette activité quoi. De penser quoi de ce sujet très important? Je pète dans le bus avant de sortir. Non, Méro Ploplo. Non. D'abord, c'est quoi ce pseudo? Et non, je dis non. C'est quoi un Dutch oven? Tout le monde me parle du Dutch oven. C'est le fait de péter au lit? Dutch. Attends, je sens que je suis en train d'apprendre un truc là. Vous êtes plusieurs à me parler du Dutch oven. Quoi, le four. Le four. Dutch, c'est quoi Dutch? Hollandais? Non, ils disent que c'est une marmite. Si je tape Dutch oven, je tombe sur un truc hollandais comme ça, là. Marmite. Pas du tout comme un prout au lit. Hein. Ah, il y a sexually speaking. Ah, pardon, j'enlève. Je veux pas tomber sur des images de fou, là. Attends. C'est quoi, Dutch oven? C'est quand quelqu'un... Attends, j'ai des traductions en anglais, là. Pète au lit et effectivement enferme son partenaire dans le lit avec la couette ou le drap pour qu'il puisse en profiter au maximum. Donc c'est vraiment ok, ça existe, ok, c'est vrai. Dutch oven, ok, ça n'est pas qu'une marmite. On est sur du lourd, on est sur le fond là. Nous avec ma femme on se pète dessus, on rigole, bref, me dit Mecca Baron, d'accord, ok, on est vraiment sur un sujet qui est assez intriguant. Merci Père Castorama de nous encourager avec ce 12e mois d'abonnement. J'adore ce débat. Venez faire du trail, vous allez péter un plomb niveau odeur dans les pelotons, me dit Casquette Verte, qui est un grand coureur de course à pied, notamment de trail, qui allait suivre ses aventures sur Twitter et sur Twitch. Casquette Verte, et c'est vrai qu'à l'époque où je courais beaucoup, c'est vrai que parfois dans les pelotons de course à pied, ça sentait un peu le bouquin. Il y avait quand même pas mal de gens, notamment chez les hommes qui viennent participer à des marathons ou autres le matin, mais sans se doucher avant, en mode, bon, de toute façon, je vais essuyer, donc c'est pas grave. Sauf que vous pensez un petit peu aux autres, quand vous attendez un quart d'heure, une demi-heure dans le peloton, dans le sas de départ, et que ça sent un peu le bouc pas lavé, c'est chaud, quoi. Plus les odeurs de crème, de trucs et tout. Pas trop les proutes, mais il y en a qui prennent pas la douche hein, le matin, avant la course. Hein. Je comprends le principe, hein, mais c'est pas sympa pour les autres, quoi. Il y a FLPMD qui cite Bigard, l'humoriste qui disait « Paix, contenu, furoncle au cul ». Voilà. Qui pète et rote, très bien se porte, dit encore Angel Stripper. J'adore. C'est un vrai débat, là. Je vous lis, hein, je me régale. J'aime péter dans les longs trajets de voiture quand elle est pleine. La voiture, me dit Buginer. Mais c'est, vous êtes des grands malades quand même, en fait. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, nous dit Néo Vavec, qui pense qu'il faut arrêter ce débat-là. Je lis un dernier message et on passe à autre chose. Je ne sais pas si cette citation est vraie, mais il y a Zeltrion qui cite Jean-Jacques Rousseau, l'écrivain, le philosophe des Lumières, dans les Confessions à vérifier. Et Jean-Jacques Rousseau qui aurait donc écrit « Femme qui pète n'est pas morte ». Bon, ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Et maintenant, parlons du ticket de caisse, du ticket de, chez les commerçants quand vous achetez un truc, voilà, qui est en train de disparaître, ou presque, hein, c'est page 6 dans le Parisien, c'est presque la fin du ticket de caisse. Pourquoi, comment? On va le voir tout de suite. Merci Lewis pour le 14e mois d'abonnement. En fait, c'est pour des raisons écologiques. L'impression automatique du ticket de caisse va disparaître, là, les enfants, là, le 1er août. Il restera possible de l'obtenir sous ticket de caisse, mais à la demande, certains commerces ne sont pas concernés. Ticket de caisse, elle est bonne. Parce qu'on vient de parler des proutes, et là on est sur les caisses. Il n'y a pas de hasard. C'est incroyable, les correspondances, c'est complètement fou. Il faudra donc désormais, nous explique Sandro Bouillard dans le Parisien ce matin, demander expressément son ticket à la caisse, si vous le voulez. Hein. Vous pouvez toujours l'avoir, mais il faudra le demander. Hein. On vous le donnera plus automatiquement. Après avoir été décalé deux fois à cause de la perte de forte inflation, bah ouais, les gens, pendant cette séquence de très forte hausse des prix, là, ils avaient parfois très envie de voir leur ticket de caisse. Pour, voilà, oula ! Ah oui, quand même ! Donc le gouvernement s'est dit, on ne va pas le mettre tout de suite. Donc ça a été reporté deux fois, mais là, ça y est, ce sera bien instauré le 1er août. Le décret publié au Journal officiel, en décembre dernier, hein, n'avait pas été appliqué jusqu'alors pour permettre aux Français de contrôler le montant de leurs achats avec la hausse des prix, c'est ce que je vous disais à l'instant. Malgré une inflation des produits alimentaires qui frise encore les 15% par an en juin, le ticket ne sera donc plus obligatoirement imprimé. Quelqu'un me dit, le ticket envoyé par mail, hein, c'est épidémio, et pas forcément plus écologique, on va en parler aussi d'ailleurs. Pourquoi une telle décision? Elle résulte en fait de la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage. 30 milliards de tickets imprimés chaque année, 25, on parle de la France, 30 milliards de tickets imprimés chaque année, 25 milliards d'arbres abattus, 18 milliards de litres d'eau envolés, ce sont les chiffres pour la France. Un seul supermarché consommerait 750 km de rouleaux par an. Donc, pour des raisons d'économie et aussi d'écologie. La mesure appliquée au 1er août ne signifie pas pour autant la disparition pure et simple du ticket de caisse. Le ticket de caisse, c'est le moyen pour beaucoup de familles de contrôler leurs achats, leurs dépenses, surtout en cette période d'inflation. Même si elle reflue un peu, il n'est donc pas question de le supprimer, fait savoir Olivia Grégoire, qui est la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises et du commerce. Qu'est-ce qui change concrètement? Bah, pas grand-chose, puisqu'il y a pas mal de commerces déjà, notamment de grandes surfaces, qui se sont déjà mis à ça, en disant, hein, vous avez vécu l'expérience, je pense, forcément récemment, en disant, est-ce que vous voulez votre ticket de caisse? On vous le demande déjà. A priori, le changement, c'est que maintenant, on vous le demandera plus. Hein, vous le voulez, vous le voulez pas, vous ne l'aurez pas. Mais si vous le demandez, vous l'aurez. Okay ? Au 1er août, quasiment rien ne change, dit le Parisien. Dans la plupart des grandes enseignes qui proposent déjà d'imprimer ou non le ticket, dès le mois prochain, les commerces devront afficher la nécessité de demander son ticket. Si les grands groupes comme Carrefour ou Système U affirment être prêts, ce n'est pas nécessairement le cas de tous les petits commerçants indépendants qui doivent modifier le fonctionnement de leur caisse pour supprimer l'impression automatique. Tous les types de commerces ne sont pas concernés. Il y a certains qui échappent à cette nouvelle règle. Par exemple, pour les achats de produits électroménagers, le ticket constitue une preuve en cas de produit défectueux pour faire valoir la garantie en vue d'une réparation, un remboursement ou un échange. Donc vous allez dans un magasin d'électroménager. On vous donnera toujours votre ticket pour ces raisons. Voilà, je vous lis un petit peu et puis on lit l'encadré sur le fait que de savoir si c'est une bonne nouvelle pour la planète ou pas. Alors, bon, vous êtes nombreux à dire que vous allez continuer à le garder pour vérifier notamment s'il n'y a pas d'erreur. Hein, je vois. Ça m'est déjà arrivé de devoir prouver que des produits viennent d'un autre magasin, donc je préfère demander le ticket, dit Kletos Brat. Il y a ça aussi. Oui, vous avez raison, il y a un truc qui ne va pas. Sleepy Third Eye me dit bonjour, est-ce que tu peux me redonner les chiffres? Quelque chose m'a fatigué. Il y a Flono qui dit, il y a forcément une erreur dans les chiffres, il y a quasiment un arbre par ticket. Dans ce qui est indiqué, vous avez raison, il y a une coquille. Heureusement que vous êtes là. Le Parisien nous dit qu'il faut savoir qu'on dénombre 30 milliards de tickets imprimés chaque année, soit 25 milliards d'arbres abattus. C'est impossible. C'est vrai qu'il faudrait un arbre pour faire un ticket. À mon avis, c'est genre 25 millions d'arbres, et encore. Ah ouais, on va... vous êtes bravo, hein. Heureusement que vous êtes là, hein. Ticket. Qu'est-ce ? On va corriger ça en direct. Ah là là là, l'info augmentée. La qualité du chat ici. 25 millions, j'ai trouvé l'info. Dans La Voix du Nord, c'est une coquille du Parisien, ça arrive. Effectivement, c'est 25 millions d'arbres. Et dans Le Parisien, donc ça c'est La Voix du Nord qui nous le dit, eh bien ce 25 millions devient 25 milliards d'arbres. Oh ! Comment je vais me la raconter? Je vais faire un tweet en disant « Waouh, là, trop la honte! Trop la honte !» Non, je ne vais pas le faire, bien sûr. Non, mais ça arrive, c'est une petite coquille. Mais bien, bien vu, bien vu. Ah, vous êtes attentif, en fait, à ce que je raconte. Hein. Bravo, hein. Bravo, hein. J'aurais dû tiquer 25 milliards d'arbres. Je suis pas sûr qu'il y ait 25 milliards d'arbres en France, quoi. Ouais, bravo, bravo. Bon, je vous lis sur les tickets, sinon. 25 millions, ça reste énorme par ailleurs. Je vous lis sur le ticket, vous êtes partant, pas partant. Bien vu hein, pour l'histoire des arbres. Tous ceux qui me l'ont fait remarquer. Bien joué. GG. Dom 38, une fois m'a facturé 12 paquets de yaourt au lieu d'un paquet de 12 yaourts. Ah oui, c'est pas pareil. Sans ticket, je fais comment pour le voir? Hein, beaucoup de magasins de vêtements envoient le ticket sur la boîte mail déjà. Ouais, justement, on va se poser la question des mails aussi. Vous allez voir. C'est très intéressant. Ah oui, d'accord. On rentre dans le précis, là, on rentre dans le très précis. Il y a David, salut David. Une histoire de pêche et puis de tomates. Vous êtes prêts? Attention parce qu'il faut être concentré là. Une fois, un caissier un peu distrait m'a compté un kilo de pêche. Alors j'ai pris un kilo de tomates. Moi je dis non. Je dis là, on est au début de la fin de la civilisation. Hein. Les tomates m'ont été facturées plus cher car elles ont été facturées au prix supérieur correspondant aux pêches. Ok. Bon là tu m'as perdu parce que je suis pas très fort en pêche et en tomate. Mais bon, sans le ticket je me serais pas aperçu de l'erreur, d'où l'intérêt de demander systématiquement pour vérifier. David, merci d'abord. Et effectivement, bah, oui, ça, oui, c'est vrai que oui. Laissez-moi vérifier un truc. C'est incroyable. C'est vrai que je reviens sur mon nombre d'arbres. Le Parisien dit 25 milliards. Certains m'ont dit, mais c'est pas possible. On a trouvé, dans La Voix du Nord, je vous remontre, 25 millions. Mais certains disent 25 millions d'arbres. C'est que ça, c'est pas possible, c'est trop. Hein? Voilà. Et du coup, je continue à chercher. Et vous savez quoi? Dans La Croix notamment, je vois 2,5 millions d'arbres. Oula. Alors, Bon, alors, en fait, on va découvrir dans un instant qu'en fait c'était deux arbres, hein, deux arbres et demi. Bon, souvent je vous dis, le journalisme est une activité humaine, est une activité faillible, donc parfois les journalistes vont un petit peu vite, un peu trop vite, et voilà, manquent un petit peu de rigueur. Bon, là on tombe sur un cas d'école, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, selon les médias, qui sont plutôt des médias sérieux, pourtant on parle du Parisien, de la Croix et de la Voix du Nord, ben voilà. Donc, moi je pense qu'on est plutôt sur 2,5 millions d'arbres. Ce qui est énorme, déjà. Mais c'est vrai que dans le Parisien, on avait du 25 milliards quand même. Bon, hein, la virgule se promène, comme dit le lion. Ouais. Des millions, vous êtes charmante, Larmina. J'ai la ref, Renifleur de Paix. Excellent, excellent. Ouais. C'est peut-être une IA qui a écrit l'article. On va commencer à se poser la question quand même. Hein. Bon. Vous voyez ? Bon, en tout cas, c'est l'illustration qu'il faut toujours lire avec une forme de recul, de prudence. Et que quand un truc vous semble étrange, comme l'histoire des arbres, là, ça mérite une petite vérification. Maintenant, on va se poser la question de savoir si c'est une bonne nouvelle pour la planète. Bon, en termes d'économie d'eau, hein, pour fabriquer le papier et d'arbres, bon là évidemment y a pas de doute. Du point de vue du gaspillage et de la consommation d'eau importante pour fabriquer du papier, la disparition progressive des tickets de caisse et autres factures du 1er août est à coup sûr une bonne nouvelle. Mais, du point de vue du bilan carbone maintenant, on va parler des mails. La réponse est frustrante, nous dit le Parisien, mais ça dépend. Comme ça, il n'y a pas de chiffres. Mais pas de souci. Au lieu du bon vieux ticket de caisse, il sera possible d'éditer un email. Pour arriver dans nos boîtes, chacun parcourt en moyenne 15 000 km, selon l'agence de la transition écologique, ADEME, direction les data centers très énergivores pour y être stockés. Bon, 15 000 km, ou 150 000, ou 150, enfin bon, c'est beaucoup. Greenly, entreprise spécialisée dans les bilans carbone, estime qu'un ticket de caisse dématérialisé devrait peser entre 0,2 et 1 méga, soit un impact compris entre 3,8 et 19 grammes d'équivalent CO2, à peu près. Hein. C'est donc plus qu'un ticket old school, dont le bilan carbone est estimé quant à lui à 2,5 grammes équivalent CO2. Alors évidemment, ce serait une mauvaise nouvelle si tous les gens qui ne demanderont plus leur ticket vont se le faire envoyer par mail. Évidemment, on se dit que ce ne sera pas la majorité, que la plupart des gens qui ne vont pas demander leur ticket vont pas demander pour un baguette ou une baguette ou quelques yaourts forcément de se faire envoyer le ticket par mail. Pas tous en tout cas, pas 100%. Donc a priori, le bilan carbone serait positif. Mais attention, le diable se cache dans les détails parfois. Si le commerçant, l'entreprise profite de votre demande pour, c'est ce que le Parisien qui l'explique, pour vous envoyer par mail pas seulement le ticket, mais aussi un petit visuel, une petite promo du magasin ou de l'entreprise, voire pire, même une vidéo. Alors là, le bilan CO2, il explose, bien sûr. Oui, la pub, Razor, exactement. Voilà. Donc, attention à l'application de ce truc, en fait. C'est intéressant, hein? Merci Jean-Bastien. Bon. Jean-Sébastien, pardon, pour le 4e mois d'abonnement. Merci Xirine18 pour le 21e mois. Hein? Ouais. Ah oui, ils font. Et puis il y a l'inscription sur la liste aussi. Ils font tout ça, je vous envoie votre ticket et ils vous inscrivent sur leur liste. Bien sûr. Bien sûr. Il y a ça aussi. Alors justement, il y a une solution là, qui est proposée par des sociétés pour éviter l'écueil. Moi, je suis toujours avec des. J'essaie d'être positif. Pour éviter cet écueil qu'on vient d'évoquer, des entreprises ont développé d'autres solutions numériques que l'envoi du mail, hein, plus vertueuses que l'email et moins intrusives pour les données personnelles, c'est le QR code à scanner. Donc ça, je ne sais pas si beaucoup de commerçants vont le proposer, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que plutôt que de demander le ticket papier, plutôt que de se faire envoyer par mail, on scanne avec son téléphone un QR code, on a le ticket, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de données, et tout. C'est pas mal. T'en pensais quoi? Hein? Voilà. Sinon, en tout cas, vous êtes nombreux à me rappeler que selon la RGPD, c'est interdit de toute façon de mettre, d'utiliser votre mail pour autre chose que vous envoyez le truc, quoi. C'est intéressant comme sujet, hein? Vous voyez, on parle d'un truc tout simple comme la disparition du ticket de caisse, et en fait, on se pose plein de questions. Pas mal le QR code. très marrant cette histoire d'arbre là. On va reparler de chiffres maintenant. On va parler de chiffres avec le feuilleton Mbappé. Hein. C'est le feuilleton là, de l'été. Là. C'est plus un feuilleton financier que sportif, d'ailleurs. Al Hilal, donc c'est un club de football saoudien, vient de faire une offre à 300 millions hein, au PSG pour Mbappé. 300 millions, 30 milliards, 3 000 milliards. Bon, hein. Non, en vrai, 300 millions, ça, on est sûr. Pour Mbappé, le club saoudien a envoyé cette proposition qui est astronomique hein, pour le recruter. Une offre très importante est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens. Nous pouvons confirmer, écrit le Parisien, qu'une proposition à hauteur de 300 millions d'euros a été faite par Al Hilal, le club saoudien. À Paris, on reste convaincu que le capitaine des Bleus a un accord pour signer libre l'an prochain au Real Madrid et on ne souhaite pas se retrouver otage de la situation. J'essaye de vous résumer la situation d'après ce que j'ai compris ces derniers jours. Évidemment, les spécialistes de football dans le chat vont le savent déjà, voire vont me corriger. D'après ce que j'ai compris, Monsieur Kylian Mbappé, dans un an, peut partir librement du PSG sans que le PSG touche aucun chèque du nouveau club. Il sera libre de droit, comme la musique. Voilà. Et le PSG, ça leur va pas du tout. Donc, en ce moment, ils sont en train de mettre la pression à leurs joueurs en disant « Ou tu te réengages avec nous une saison ou deux de plus, donc tu pars pas libre l'an prochain. Ou alors, tu pars, mais pas dans un an, tu pars maintenant, t'es encore avec nous, et du coup, on te vend et on empêche des millions. Ah, » je suis assez content de mon petit résumé. Donc, gros coup de pression, et notamment... Mbappé qui n'a pas été emmené dans la tournée en Asie là et qui a été laissé par son équipe dans le loft quoi en quelque sorte voilà un peu à la maison quoi. Donc c'est hyper tendu entre le PSG et Mbappé, le PSG qui soupçonne Mbappé d'avoir déjà un accord en fait avec le Real Madrid pour partir dans un an. Voilà, j'ai plutôt bien expliqué. Ah merci beaucoup, vous êtes plusieurs à me dire que je ne suis pas trop trompé. Voilà. Alors là où il y a un truc à enquêter un petit peu, c'est comme sur les arbres, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup lu hier sur Twitter notamment que en plus des 300 millions pour le PSG, Al Hilal propose 700 millions d'euros par an pour une année seulement à Mbappé. Et moi, quand j'ai fait une recherche ce matin sur ce chiffre, eh bien, j'ai pas trouvé ça. Et donc, j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Alors, on va faire Mbappé, Al Hilal, millions, et on va voir. Parce que j'ai trouvé d'autres chiffres. J'ai trouvé d'autres chiffres. Et donc, peut-être que les réseaux sociaux se sont un petit peu... enflammés. Ou pas, d'ailleurs, on va voir. Alors, j'essaie de trouver une source de qualité... Tiens, par exemple, j'ai un article dans Le Soir, qui est un journal belge. Et j'ai l'impression que les gens ont peut-être confondu les 700 millions avec autre chose, regardez. Donc les 700 millions sont bien évoqués par Le Soir, d'accord ? Ah zut ! Il n'y a pas l'article, faut payer. Mais regardez dans le résumé ici. Qu'est-ce que dit Le Soir ? Al Hilal préparerait un pactole de 700 millions, ok, dont 400 millions de salaire pour deux saisons. Donc ce ne serait plus, comme on l'a beaucoup lu hier sur Twitter notamment, 700 millions d'euros pour une année pour Mbappé, mais ce serait 700 en tout, 300 pour le PSG, 400 pour Mbappé, pour deux années. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que manifestement, il y a des journaux qui ont peut-être fait la confusion. Là, je vois 20 minutes, par exemple... les 10 choses que Mbappé pourrait souffrir avec les 700 millions d'euros et ont confondu en fait. Voilà. Mais West France fait la... Ah, qui a raison ? West France fait l'addition. Hein, c'est 700 plus 300 et fait 1 milliard. Oh, 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 oh. Incroyable. Avec notre histoire d'arbre, ça montre quand même que il y a parfois un petit manque de rigueur dans la manière dont les infos sont répercutées, y compris par des médias normalement de qualité. C'est fou, hein? C'est fou, hein? C'est un petit peu embêtant, hein? Qu'est-ce que dit le Figaro? Bah, ils sont merde pas. Ils parlent que les 300 millions du PSG. Moi, j'aimerais trouver. Tiens, le monde en général, Mbappé, le monde, est-ce que le monde donne le chiffre? Il y a 22 heures. Peut-être pas mal, ça. Dans tous les cas, les chiffres sont stratosphériques, mais l'idée, c'est quand même de voir que les médias semblent un peu fâchés avec les chiffres, quand même. Puis après, ça part sur Twitter, puis ça commente un peu n'importe quoi. Là, on n'a pas le chiffre dans cet article du Monde. 13 juin, là, on va mettre un crible. Je suis abonné, donc normalement, on devrait avoir l'article sans problème d'accès. On va ranger par date. Eurosport. Eurosport, ça peut être une bonne source. On va regarder qu'est-ce qu'ils disent, eux. Non, mais ils donnent pas, là. Ils donnent que les 300 millions. L'impression qu'il y a quand même un loup là. Bon, à suivre, à suivre. Bon, en tout cas, on est d'accord, les chiffres sont gigantesques. Bon, on est d'accord que c'est plus un feuilleton financier que sportif. D'ailleurs, c'est ce qui met en colère, vous allez voir, la Croix. Des mesures, c'est l'éditorial de Jérôme Chapuis, qui est le directeur de la rédaction de La Croix. Alors, plus pour longtemps, parce que si je dis pas de bêtises, Jérôme Chapuis, il quitte la direction de la rédaction de La Croix. Il signe de très bons éditos d'ailleurs, et il arrive à la matinale de France Info, la radio, pour remplacer Marc Fauvel, puisque avant d'être un journaliste de presse écrite et un directeur de la rédaction de La Croix, c'était un journaliste qui a fait beaucoup de radio, Jérôme Chapuis, et il arrive à la tête de la matinale de France Info, radio. Pour co-animer, hein, avec Saria Braclia, si je dis pas de bêtises, la matinale de France Info, la radio. Des mesures, dit Jérôme Chapuis ce matin dans La Croix. Ce n'est plus du football, ceci n'est plus du football. Plutôt qu'une gigantesque partie de poker menteur dans laquelle Kylian Mbappé fait figure de carte maîtresse. Entre le joueur français et le Paris Saint-Germain, la rupture est consommée. Il semble bien, hein. Le capitaine de l'équipe de France, sûr de sa valeur, ne fait pas mystère de son désir de rejoindre dans un an ou plus tard un autre club européen, le Real Madrid ayant donc sa préférence. Les dirigeants du PSG craignent de le voir partir à l'issue de son contrat sans qu'il ne touche donc aucune indemnité de transfert. Depuis quelques jours, l'affaire se corse, on l'a bien compris. Le club a décidé de ne pas emmener son club en tournée en Asie et semble prêt à le priver de terrain toute la saison. L'objectif est d'inciter Mbappé à partir dès cet été, ce qui permettrait au PSG d'empocher un petit pactole ou alors de le faire prolonger son contrat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne cherchez pas la morale de cette histoire, écrit Jérôme Chapuis, il n'y en a pas. On se situe quelque part entre la spéculation grossière et la tentative d'extorsion de signature. Quant aux amoureux du ballon rond, qui croyaient avoir tout vu en matière de démesures financières, ils sont fondés à trouver ce spectacle, je cite, parfaitement indécent. Non, décidément, ceci n'est pas du football. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en pensez quoi, vous? Indécent, c'est le mot, dit OTR Stream. Ça fait bien longtemps que le mercato, ça n'est plus du football, dit John Doe. Il a un contrat, il le respecte jusqu'au bout, c'est fou qu'on lui en veuille, estime Mats. Les sommes sont démesurées, c'est affligeant, dit Aria. Tony, c'est trop. Quand c'est trop, c'est tropico. C'est la participation d'Eloi tout mieux à notre débat. Le football business, Claudine French. J'ai mal à mon foot, nous dit Trunks, base. Joueur de foot ou marchandise, s'interroge Léo. Indécent pour Free Flight. Et Nebilino nous dit, c'est pas mon argent, c'est pas grave. Qu'il donne 1 million à tous les Français, El Phénoméno, j'ai la ref de la blague, j'ai la ref. Et toi, Sam, t'en penses quoi?
Voilà.
Je suis pas un spécialiste de football, moi. J'y connais trop rien. Mais je sais le débat sur l'indécence de ces salaires pour certains footballeurs, mais je dirais que je suppose qu'il y a une loi d'offre et de la demande. Je suppose que ces footballeurs payés très cher certains rapportent beaucoup d'argent aussi à l'entreprise, au club, aux actionnaires, par les droits télé, par le merchandising, etc. Et je suppose que l'entreprise a un retour sur investissement, voilà. Mais dans cette optique, que le joueur capte une partie de ses gains qu'il provoque par son talent, et par le fait que plein de gens sont prêts à payer pour acheter une place au stade ou pour payer les droits de regarder le match à la télévision. Bon, si le joueur en profite pour une partie importante, en soi, ça ne me choque pas. Dans le sens où si cet argent n'allait pas au joueur, il irait sans doute dans la poche du club, quoi. Voilà, mais bon. Comme le dit Tigous, dans la logique capitaliste, voilà, il n'y a rien de choquant, c'est ça. Mais il y a sûrement des excès, bien sûr. Diou34, merci pour le 15e mois d'abonnement. Popovigno, merci pour le 13e mois d'abonnement et pour le gentil message. Et on continue. Avec quoi? Ah, là, on va parler de quelque chose de beau et de fort, même si c'est triste aussi. C'est l'occasion, avec cet article, page 14 du Barésien, de rendre un hommage ensemble à un garçon qui est formidable, qui s'appelle Mathieu Lartaud, qui est un confrère, qui est un ami, qui est un journaliste du service des sports de France Télévisions, qui, 25 ans après, a développé un nouveau cancer à la jambe et qui vient de se faire amputer d'une de ses deux jambes pour éviter que son cancer ne progresse. Pour la petite histoire, sachez que Mathieu Lartaud, qu'on a reçu dans l'Hebdo Étienne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup la saison dernière sur Twitch. Mathieu, c'est quelqu'un qui, à 25 ans, se destinait à une carrière de sportif, de rugbyman professionnel, et qui a été touché tout jeune par un cancer. Et c'est comme ça qu'il est devenu journaliste, parce qu'il n'a pas pu aller au bout de ce rêve. Et il est devenu un très bon journaliste sportif, notamment spécialisé et passionné de rugby. 25 ans après, ce cancer l'a rattrapé. Voilà, peu de temps d'ailleurs après qu'il soit venu à la maison, il l'a appris, et il vient de se faire amputer, et cette interview qu'il vient d'accorder aux Parisiens est un modèle de courage, d'abnégation et d'humilité aussi, et c'est un grand bonhomme. Et on va lui rendre hommage en lisant cet article du Parisien. Mathieu Lartaud, cœur battant, le journaliste de France Télévisions, commentateur des matchs du 15 de France, poursuit sa rééducation après avoir été amputé de la jambe droite. La veille, il a diffusé sur son compte Instagram une vidéo le montrant marcher. C'est la vidéo à la capture d'écran que vous voyez en bas à gauche ici, muni de béquilles dans la rue, à la place de sa jambe droite, amputée donc en juin. La prothèse se devine sous le pantalon de Mathieu Lartaud. Elle va désormais accompagner la vie du journaliste du service des sports de France Télévisions, contraint de subir cette opération après une rechute de son cancer du genou annoncé en avril. Drouviot, bonne journée à toi. Comment allez-vous? Demande le Parisien à Mathieu, qui répond « Je vais bien, je vais très bien », il insiste. « Je sors d'un long tunnel et là, je vois la lumière. Je fais mes premiers pas avec ma prothèse. Depuis quelques jours, je fournis beaucoup d'efforts, mais tout va bien. Les nouvelles se sont transformées en bonnes nouvelles. » On ne peut pas être définitif sur le sujet de mon cancer. On sait très bien que les récidives existent, mais on s'est donné le maximum de chance. On a mis le paquet sur la chimiothérapie, on a atteint le seuil de produits assez agressif que j'étais capable de recevoir, le même protocole que j'ai subi il y a 25 ans déjà, la chimiothérapie a été efficace. On a la certitude que les cellules cancéreuses ne sont pas parties plus haut dans la jambe, mais la surveillance va être étroite car les gens qui ont eu ce genre de choses, quelqu'un me disait dans le chat qu'il avait été atteint du même cancer au même endroit, les gens qui ont eu ce genre de choses savent qu'il faut continuer à regarder pendant 5 ans après si le cancer ne revient pas. Comment s'est passée l'amputation? Demande le Parisien à Mathieu Lartaud. Il répond « Ma chirurgienne a fait des miracles. Les spécialistes qui me suivaient pensaient que j'aurais un moignon court de 10 cm, mais elle a réussi à garder 4 cm de plus, ce qui change beaucoup de choses par rapport à la prothèse, par rapport à l'appareillage. » Je salue Bruno Universimu, voilà, qui nous a déjà raid hier, c'est adorable. Bruno, dont je vous remontre la page, qui est un passionné de jeux vidéo, notamment, et notamment de simulation. On parle de jeux vidéo, bien sûr. Merci Bruno pour le raid. Je te vois encore, c'est mignon parce que je te vois encore à l'écran là. Voilà, tout est bon dans la simulation. Ici des streams sur Farming Simulator, il faut que je découvre ce jeu là, mais aussi sur des sims de train, de bus, d'avion et j'en passe. Ça c'est un truc, c'est un univers que je veux découvrir à partir de la fin août là, dans l'émission ça me plaît. On est aussi joueur au quotidien, notamment sur Assassin's Creed. Voilà. Bruno, pas impossible qu'on se croise sur un jeu de simulation. Merci Bruno pour le raid, c'est super gentil. On vient de voir la fin du stream en direct de Bruno ici. Merci à toi. Bruno et les amis qui étaient chez Bruno, on est en train de lire un papier sur Mathieu Lartaud, ce journaliste de France Télévisions qui a eu un nouveau cancer à la jambe et qui vient de se faire amputer de la jambe. Donc il disait, ma chirurgienne a fait des miracles, elle a réussi à garder 4 cm de plus au niveau de mon moignon, ce qui change beaucoup de choses par rapport à l'appareillage, par rapport à la prothèse. 3 heures après l'opération, et ça c'est dingue, 3 heures après l'opération, j'étais debout à marcher en béquille, on m'a enlevé les fils au bout de 16 jours, j'ai très vite cicatrisé. Comment vit-on le fait de se réveiller d'une opération avec une jambe en moins, lui demande le Parisien. Je m'y étais préparé, un accidenté de la route ne vit sans doute pas la même chose que moi qui ai pu anticiper la chose. À mon réveil, je n'ai pas eu d'appréhension à regarder sous le drap. C'était ce que j'avais imaginé, je n'ai pas eu de temps de gamberger puisqu'on m'a très vite fait remarcher avec des béquilles. Je n'étais pas abasourdi, sonné, coulé psychologiquement et c'est important parce que le mental joue beaucoup. Le Parisien lui demande s'il a reçu beaucoup de messages de soutien et je sais qu'il en a reçu énormément. Merci Diou34 pour le soutien. Depuis avril, c'est un tsunami de soutien, dit Mathieu. Il y a des passionnés de sport, mais aussi des malades du cancer. J'ai reçu des messages très poignants, très difficiles à lire. J'ai tissé une relation particulière avec deux femmes en phase terminale de cancer, dit notamment Mathieu. Vu les bonnes nouvelles, dernière question du Parisien, est-ce que la probabilité de vous voir commenter les prochains matchs du 15 de France pendant le mondial de rugby est renforcée? Il dit oui, c'est quasiment acté même. Je serai présent, je serai debout au match d'ouverture du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Et puis, je serai là à commenter les matchs, on verra ça, on verra où ça en sera. Je serai au stade ou en marchant ou alors avec des béquilles ou en fauteuil. Et alors là, le Parisien pose la question, et il a raison de le faire, de l'accessibilité des stades aux personnes en situation de handicap, et ça c'est un message important que Mathieu Lartaud fait passer, si vous cherchez la chaîne de Bruno Universimu, les modos l'ont mis dans le chat. Les grands stades de la Coupe du Monde de rugby, oui, hein, sont accessibles aux personnes en situation de handicap, mais certaines enceintes de la Coupe d'Europe ne sont pas faites pour les handicapés. Je pense à la tribune de presse du stade Mayol à Toulon, où j'avais déjà eu du mal avec ma jambe raide. Ça va être ma bataille, convaincre les présidents de club du travail à faire dans l'accueil des handicapés à un an des Jeux Paralympiques. Il y a d'ailleurs des choses scandaleuses en France, dit Mathieu Lartaud, comme déjà des transports en commun pas adaptés. C'est un truc que je vous dis régulièrement, mais dans un pays comme la France en 2023, le problème de l'accessibilité notamment aux transports en commun aux personnes en situation de handicap, ça n'est pas normal. Bon, le Parisien que je suis pense notamment, Seb Gon en parle dans le chat un instant, à l'accessibilité du métro parisien aux personnes en situation de handicap. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc voilà, Mathieu en reparle ce matin ici pour l'accès au stade, mais il fait bien de le faire. Grand bonhomme, très grand bonhomme, Mathieu Lartaud. Voilà, très admiratif, vous l'avez compris, de cette force de caractère, quoi. Je sais pas si vous, si moi, nous pourrions réagir avec la même force en fait, avec ce même moral face à ce double cancer en l'espace de 25 ans et à l'amputation d'une jambe, quoi. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Je dis bravo, monsieur. Et puis, j'espère que Mathieu voudra venir dans l'Hebdo Étienne ou dans un autre programme. Je serais très heureux de le recevoir. Alors, c'est pas parce que c'est France Télévisions. Vous allez dire, il est en train de faire la pub du groupe pour lequel il travaille. Non, c'est un peu le hasard de l'actualité. Je voulais juste vous dire que dans le Figaro Écho, page 26, France Télévisions se félicite des audiences du Tour de France. Les audiences ont été très, très, très fortes. Et puis également du fait qu'ils ont... C'est chez moi, ça, vous inquiétez pas, c'est un petit signal d'alerte. Voilà. C'est quand j'ai atteint un certain quota de mots positifs sur France Télévisions, en fait, je reçois un carnet de tickets restaurant supplémentaire. Et donc j'ai une alerte sur mon ordinateur, là, c'est ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc France Télévisions se félicite puisqu'ils ont re-signé jusqu'en 2030 pour les droits du Tour de France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la petite reine. Voilà. Non, c'est vrai, un ticket restaurant, c'est un deal que j'ai passé. Et puis, alors beaucoup moins souriant, ce conflit dans les médias, toujours, c'est en bas à droite ici, au Journal du Dimanche. Je vous en ai longuement parlé hier. Je vais vous rappeler que ça fait 5 semaines que les journalistes du JDD sont en grève, 5 semaines que le Journal du Dimanche ne sort plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de ce nouveau directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, qui leur est imposé par la direction, notamment par le groupe Bolloré, qui est en passe de devenir propriétaire du Journal du Dimanche. Pourquoi? Parce qu'il est très éloigné de la ligne éditoriale du journal, historiquement. Geoffroy Lejeune, c'est quelqu'un qui était récemment et a encore été directeur de Valeurs Actuelles, qui est un magazine qui est assez à droite, hein, très à droite, et qui a été remercié, viré de Valeurs Actuelles, parce que justement, il l'avait trouvé trop à droite, hein, puisqu'il avait notamment milité pour Éric Zemmour, affiché son soutien public pour Éric Zemmour pendant la présidentielle. Donc les journalistes du JDD ne veulent pas de ce directeur de la rédaction. Ils sont en grève, voilà, en grève donc sans salaire depuis 5 semaines déjà. Et sauf que le bras de fer se durcit, puisqu'on apprend dans Le Figaro que le groupe Lagardère, qui est l'actuel propriétaire pour encore un petit moment, avant que Bolloré prenne la main, mais on soupçonne Bolloré d'être à la manœuvre dans cette histoire, eh bien, a annoncé que le 1er août prochain, eh bien, Geoffroy Lejeune arriverait bien à la tête du JDD. Voilà, donc le bras de fer se poursuit. D'un côté, une rédaction qui ne veut pas de ce nouveau directeur de la rédaction, de cette nouvelle ligne éditoriale, parce qu'un directeur de la rédaction, il imprime sa ligne, bien sûr, hein, et de l'autre, un actionnaire qui dit, eh ben, c'est comme ça. Voilà. Sachant que, si vous connaissez un petit peu l'actualité des médias, c'est exactement ce qui s'est passé à Europe 1 et à CNews, l'ancien iTélé, où le groupe Bolloré a changé la ligne éditoriale, provoquant des grèves des deux rédactions, avec des bras de fer qui, au final, ont été gagnés par l'actionnaire. Voilà, donc je voulais vous tenir au courant de ce feuilleton, puisqu'on en a déjà parlé hier, mais ici, on annonce Geoffroy Lejeune à la tête du JDD le 1er août. Merci Steph pour le meilleur matinal du monde. C'est faux, mais c'est gentil. Alasta Carole demande qui a placé Lejeune à ce poste au JDD? Est-ce que c'est Bolloré? Est-ce que c'est Lagardère? Alors officiellement c'est Lagardère qui est encore l'actuel propriétaire, mais dans les faits, en fait, maintenant c'est Bolloré qui est le nouveau patron. Donc en fait, il se dit, et cette information est assez et me semble assez juste, que c'est Bolloré, hein, qui prend cette décision éditoriale, quoi. Ah, laissez-moi lire. Ouh là là. J'en lisais quelques messages. Je vous lis un petit peu là-dessus et on enchaîne avec un dernier article. Oh, j'ai perdu mon article, il va revenir. Hop, c'est magique. Vous êtes nombreux en tout cas à sourire, entre guillemets, hein, du fait que Monsieur Lejeune ait pu être viré de Valeurs Actuelles parce que considéré comme trop à droite. Ou effectivement, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une raison économique à ça, puisque manifestement, ce virage éditorial de Valeurs Actuelles, encore plus à droite, donc très pro-Zemmour, en fait, a eu manifestement de mauvaises conséquences sur les ventes du journal. Les lecteurs n'ont pas suivi. Et donc, il a aussi sans doute été remercié pour ça. Non, excusez-moi, voilà. C'est mes tickets restaurants qui continuent de tomber. Je finis là-dessus avec une question de Le Nettoyeur. Samuel, je comprends pas. Quand tu dis qu'on a imposé le jeune à la rédaction, c'est eux qui choisissent d'habitude. Non, j'étais maladroit dans mon expression. Évidemment, ce n'est pas la rédaction qui choisit son directeur. Bon, même si les journalistes en France essayent d'être le plus indépendant possible, c'est pas eux qui choisissent leur directeur, c'est la direction, bien sûr. Mais pour que ça se passe bien, il est de bon ton que le directeur de la rédaction soit en phase minimale avec la ligne éditoriale du journal, du média et de la rédaction, pour que la collaboration se passe bien au quotidien, quoi. Là, on ne vend pas des yaourts, là, ou du savon. Il s'agit de fabriquer un journal, d'écrire des articles ou de faire des reportages de la meilleure qualité possible, avec une certaine ligne éditoriale, un certain regard que, globalement, une rédaction partage, quoi, pour que ça se passe bien. Nommer ici un directeur de la rédaction à ce point éloigné de la ligne éditoriale du journal du dimanche historique, c'est vrai que c'est un casus belli, dans le sens où ce monsieur va imposer de nouveaux axes d'écriture sur l'actualité, les siens, et qui ne correspondent absolument pas au regard sur le monde de ces journalistes. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup vont partir, beaucoup vont démissionner. Voilà. Bon, ça arrive de temps en temps dans notre milieu. Il y a même une clause, hein, je vous en parlais hier, qui s'appelle la clause. Mince, la fatigue. Zut, vous allez me la rappeler pour ceux qui étaient un peu concentrés hier. La clause de conscience, merci Guillaume. C'est un truc qui existe dans le milieu du journalisme. Quand il y a un changement éditorial important décidé par la direction sur un média, voilà, eh bien, les journalistes peuvent faire jouer une clause de conscience en disant bah voilà, moi je ne me retrouve pas dans cette façon de faire de l'information, voilà, et donc je m'en vais. Et cette clause de conscience leur permet en fait de partir avec des indemnités comme s'ils avaient été virés, alors que c'est une démission. Voilà, ça s'appelle la clause de conscience. On y reviendra parce que ce bras de fer au JDD n'est pas terminé. Voilà. En tout cas, ça illustre bien le fait, quand je vous raconte que les journalistes sont des salariés un petit peu à part, des salariés parfois un petit peu, très indépendants, voilà, qui ne prennent pas forcément les ordres qu'on leur donne de façon, j'ai du mal à m'exprimer dans cette fin de script, je suis désolé, c'est un peu comme les Français et le foot, quoi. Chaque Français est un sélectionneur en puissance de l'équipe nationale. Et ben, dans une rédaction, au pied de la lettre, merci beaucoup Abso, dans une rédaction, chaque journaliste a une idée, c'est normal d'ailleurs, assez précise de la ligne éditoriale que devra avoir son média. Et une vie dans une rédaction, c'est extrêmement animé, ça gueule beaucoup, notamment en conférence de rédaction, en réunion, où les journalistes entre eux s'opposent en disant « Mais voilà comment on doit raconter l'information. Ah, mais je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut dire ça. Je pense qu'il faut faire ce reportage. Mais ton analyse n'est pas bonne. » Donc, au sein même d'une rédaction, il y a un débat permanent, quoi, que vous ne voyez pas, qui est un peu caché, bien sûr. Mais pour vous montrer que les journalistes, bon, voilà, c'est une profession et on n'a pas le doigt sur la couture du pantalon, quoi. On n'est pas à l'armée. Et donc, il y a des débats incessants. Et parfois ça va justement jusqu'à ces situations là où à un moment l'ensemble d'une rédaction peut ne plus se retrouver dans l'évolution éditoriale d'un journal, quoi. Voilà. On en reparlera. Alors, on finit avec ça. Les Échos, bon, qui s'inquiètent sur la croissance européenne. Ça, c'est le gros dossier. Si ça vous intéresse, c'est à lire aujourd'hui dans Les Échos. On va finir sur un petit cocorico. Non, j'ai pas oublié l'horoscope. Alexandra, il arrive. Un petit cocorico. Vous aimez pas, mais un petit cocorico. David Guetta nous dit Les Échos, page 18 ce matin. Eh bien, rejoins les artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify. Merci Renan pour le 9e mois d'abonnement. Waouh, bon Gervin à toi, bravo. Sur Spotify, le DJ français a réussi à se faire une place au panthéon des artistes comptabilisant le plus d'auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming. C'est la première fois. Début juillet, il a même atteint la 4e place, une première pour un artiste français. Lisons un petit peu. Sia, Justin Bieber ou Bruno Mars, tous s'arrachent une collaboration avec le DJ le plus en vogue dans le monde, avec près de 74 millions d'auditeurs mensuels. David Guetta est devenu l'un des artistes les plus streamés sur Spotify début juillet. Il a même atteint la 4e place. quatrième place. Ce qui est énorme quand même. Et c'est la première fois pour un artiste français. Il est depuis redescendu un petit peu à la sixième, le classement étant établi sur les écoutes des 28 derniers jours. Devant lui, The Weeknd, première marche du podium. Quelqu'un me demandait en début de stream quel est l'artiste le plus écouté sur Spotify dans le monde. Aujourd'hui, c'est The Weeknd. Ensuite, vous avez Taylor Swift. Ensuite, vous avez Ed Sheeran. Ensuite, vous avez Bad Bunny, rappeur portoricain, et Rihanna. Et puis aujourd'hui, sixième, vous avez David Guetta. 55 ans aujourd'hui, David Guetta. Record d'écoute grâce à ses deux hits récents, Baby Don't Hurt Me, sorti en avril, mais surtout la chanson I'm Good, Blue, produite avec la chanteuse Bébé Rexha. Second titre de l'artiste français avec Titanium a cumulé plus d'un milliard d'écoutes. David Guetta se classe donc comme l'unique français, même avec deux titres, avec plus d'un milliard d'écoutes. C'est drôle parce que du coup, je suis allé écouter les deux titres que je connaissais pas, la Baby Don't Hurt Me et I'm Good, et en fait, c'est, bon, bah, c'est le principe du remix en même temps. Ah, j'ai mis un coup de fil, j'ai loupé. Parce que j'attends une livraison. Bah, de matos, justement. Pour le stream. Non, mais c'est pas ça. Et donc, en fait, bon, bah, ouais, c'est des très vieux titres, en fait, mais évidemment, il y a la magie du remix et la collab avec des artistes qui passent derrière, quoi. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien pour courir. J'avais une guitare, ça donne bien la pêche. La majorité des auditeurs... Ah, ça, c'est intéressant. La majorité des auditeurs ne proviennent pourtant pas de la France. Le DJ cartonne aux États-Unis, première base d'auditeurs de David Guetta, suivi par l'Allemagne, suivi par le Royaume-Uni. Les Français arrivent à la sixième place derrière le Mexique et le Brésil. Depuis la sortie de son premier album en 2002, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme vidéo? Tout le monde me parle d'une vidéo, Kerry.
This record is in honor of George Floyd. And I really hope we can see more unity and more peace when already things are so difficult.
Pourquoi vous me mettez cette vidéo? Parce que tout le monde rigole. C'est quoi? J'ai pas le contexte, il faut m'expliquer. Donc c'est un hommage de David Guetta à... C'est quoi la blague? Ah, c'est la fin qui est drôle. Dites-moi le contexte avant que je la play. Je vais la continuer, mais dites-moi le contexte parce que je veux pas envoyer n'importe quoi, même si c'est un modo qui m'a envoyé la vidéo. Ça se regarde? Ok. Bah après, vous m'expliquez le contexte alors. Hein. Alors, on va regarder ça. Donc, hommage à George Floyd. On regarde.
This record is in honor of George Floyd. And I really hope we can see more unity and more peace when already things are so difficult. So, shout out to his family.
Alors, je n'ai pas la rêve de la vanne. Qu'est-ce qui est drôle? Alors, on me dit que c'est un montage, que la musique à la fin qui est un peu ridicule n'est pas d'origine, que le reste est réel. Voilà. C'est une mise en scène, c'est jamais arrivé. C'est un fake, vous êtes très nombreux à le dire, quoi. Voilà. Alors, il y a plein qui rigolent en disant il était ridicule, et beaucoup qui précisent en fait que c'était un fake. Voilà. Alors, ah, la musique à la fin n'est pas de lui. Mais alors, est-ce à dire que ceux qui m'ont envoyé la vidéo pensaient que c'était une vidéo réelle? Vous trouvez que le discours était un petit peu quoi? Il faut que tu regardes la réaction des toiles, il donne du contexte. On part loin là, hein. Ah, ce qui est drôle, c'est le shout out qui veut plus dire dédicace que hommage. Oui, bon. Hein? Oui, on va laisser ça à TikTok plutôt. Je reviens aux échos, si vous le permettez, et donc qui reviennent un petit peu sur le parcours de David Guetta. Depuis la sortie de son premier album en 2002, David Guetta n'a cessé de construire une renommée. Auparavant, il était davantage dans le genre de la dance floor, explique les échos. La bascule, c'est intéressant, s'est faite vers la pop rythmique en 2009 avec les Black Eyed Peas et I Got a Feeling. Je pense que vous connaissez le titre. Là, c'est Nicolas Duroy qui est directeur éditorial de Spotify France qui l'explique. Et ensuite, ces collaborations lui ont permis de toucher un public plus large et à l'international, d'où les chiffres qu'on vient d'évoquer à l'instant. Son côté producteur fait qu'il a pu et su repérer aussi des artistes en devenir, comme Sia, par exemple, en 2011, avant qu'elle ne devienne une chanteuse mondialement connue. David Guetta touche un large public également en termes d'âge, ça aussi c'est intéressant. Ses auditeurs ont entre 18 et 44 ans pour 70% d'entre eux, avec une égale répartition entre les âges. Il faut dire qu'il a une carrière de plus de 20 ans. Avec 44 certifications pour ses albums et singles, dont 7 disques de diamant, l'artiste continue de faire danser le monde entier. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je me suis rajouté deux titres de Guetta dans ma playlist de running. Hop, horoscope. On va terminer avec l'horoscope aujourd'hui. Alors, le jeu de l'horoscope, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier, la première qui me donne, c'est gagné, c'est Lion, je crois. Non, ah, j'ai peut-être du Scorpion, on va voir. La photo finish dans un instant, la VAR pour départager. Le jeu, il est débile. Quand arrive la page horoscope, ici du Parisien, le premier, la première à me donner son signe astrologique sans faute d'orthographe dans le chat, je lui lis son signe, ce n'est pas scientifique, c'est de la connerie. Ça nous fait marrer. Qui a gagné aujourd'hui? C'est Scorpion. Je pensais que c'était Lion avec Calife. Je pensais que c'était Ecorona avec Bélier. Mais non, c'est Janvier TV qui a été le plus rapide avec Scorpion. Ha 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 ha. Scorpion, still loving you. Pour ceux qui ont la rêve, c'est parti. Très longtemps qu'on n'avait pas lu les Scorpions. Qu'est-ce que ça donne? Il y a Janvier TV qui dit « J'ai jeté mon vélo sur la ligne. » Photo finish, bien joué. Qu'est-ce que ça donne les Scorpions ou les Scorpionnes? Cœur, vous serez prêt à vous mettre en quatre pour vos amis. Et certains auront besoin de vous. Vous êtes un chouette ami ou une chouette amie, les Scorpions, c'est cool. Wind of change. Pardon. Réussite, des rivalités peuvent surgir et vous pousser à une certaine agressivité. Vous laissez pas faire, les Scorpions, vous laissez pas. Hein ? Moi, je vais vous dire, les Scorpions. Si quelqu'un vient vous casser les couilles aujourd'hui, Viens vous ennuyer, voilà. Ne vous laissez pas faire. Je suis d'accord avec le Parisien, ne vous laissez pas faire. Voilà. En plus, vous êtes un très bon ami, donc... Non mais, forme, faites du sport. Moi, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, l'horoscope, à forme, ils disent faites du sport, faites de l'exercice. Ça ne prend pas de risque. Voilà pour les Scorpions. Voilà, c'est vrai. Pas mal, ça. Les amis. Ouh, qu'il est court, ce petit stream. 2h35 de stream. C'est un stream express. Non, bon, en vrai, c'est bien aussi. Ça va me permettre de faire d'autres trucs. Tiens, il faut que je commence à bosser sur ma programmation d'ailleurs pour les émissions de la rentrée. Puisque l'hebdo Étienne, avec 4 invités par semaine sur l'actualité de la semaine, donc vendredi soir à partir de la fin août, et ça me plaît, un invité tous les dimanches soirs 20h à partir de la fin août pour nous plonger dans l'univers d'un jeu vidéo chaque semaine, eh bien, il va falloir que je commence à caler tout ça. Donc, je vais bosser là-dessus. Je suis très fier de vous rappeler ce nouveau petit bébé fabriqué ici tous les matins avant ma revue de presse sur Twitch, la matinée Étienne, qu'on va essayer de faire quasiment tous les matins là maintenant en ce début de quatrième saison là, puisque je ne fais plus la matinale de France Info, j'ai un peu plus de temps pour vous. Et bien, en plus de la matinée Étienne, tous les matins aux alentours de 8h-8h30, je poste une mini revue de presse, une revue de presse express de ce matin, il fait 7 minutes au lieu de 2h30, 3h, c'est plus court, sur TikTok. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller sur ce format, sur un public aussi qui peut être assez jeune en plus, et de sensibiliser ce public à l'actualité avec un format rigoureux, mais souriant quand même, et un peu court. Quoi. On a fait 8 minutes hier, 7 minutes avant-hier, 7 minutes ce matin, revue de presse express sur TikTok. Voilà, donc je suis assez content parce que bah, les gens trouvent ça cool. Voilà. Puis moi aussi, je trouve ça cool, je suis content de le faire. Oui, Ilax, la matinale de France Info, c'est ma décision. Ça faisait 8 ans que je me levais à 2h du matin et je trouvais ça super et j'adorais cette chaîne et j'adore l'équipe de la matinale. Mais en fait, je suis crevé et mon corps fatigué, en fait, commençait à me lâcher un petit peu. Et avant que ça ne marche plus, j'ai préféré arrêter, le lever à 2h et utiliser ce temps et cette énergie pour d'autres choses, et notamment pour Twitch, puisque je me régale ici avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, c'est pas terminé. On va faire un raid, bien sûr. Puisqu'ici, on raid les gens, on profite de la belle audience que vous formez vous pour aller soutenir un autre créateur de contenu, une autre créatrice de contenu. Hier on a fait un garçon, on a fait Joe, serait bien une streameuse aujourd'hui, voilà, sur Twitch, voilà, plutôt des gens qui n'ont pas encore trop d'audience pour les aider. Donc je vous fais une petite pause, restez vraiment, c'est sympa comme moment, c'est toujours important, je vous mets 2 minutes de pause et on se retrouve dans 2 minutes pour le raid. Je vous laisse vous faire vos propositions dans le chat et je prendrai l'une de vos propositions pour le raid. On se met une petite musique, c'est bien ça ou pas? Ça a l'air carrément bien. On se retrouve dans 2 minutes pour le raid. Je me suis régalé avec vous ce matin. Tout de suite. Alors, on va où? Ok. Ok, j'ai trouvé. Hop, je coupe le son ici. On a trouvé la destination, c'est grâce à vous. On s'était dit qu'on allait trouver une streameuse. On a fait un raid vers mon ami Joe hier. Je l'ai trouvé. Je crois que c'est la première fois que je raid cette streameuse. Je vous donne l'adresse si jamais vous perdez en cours de raid. Ça arrive. C'est IDK Butim Leila. IDK Butim Leila, 130 viewers sur sa chaîne actuellement. Vous arrivez, soyez comme vous êtes d'habitude, sympa, curieux, chaleureux. Saluez cette streameuse de ma part. Je vous retrouve demain matin 8h30, 8h45, 9h au plus tard sur Twitch pour la matinée Etienne, et puis demain matin pour la revue de presse express sur TikTok aussi. Je lance le raid. Merci pour ce matin, je me suis régalé. Bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez heureux. À demain. C'est parti.